Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Arcanal et Mystères du Monde. Aujourd'hui, nous allons parler des mégalithes. Alors, vous connaissez tous les menhirs, dolmens et autres cromlechs qui parsèment nos territoires. Néanmoins, ces monuments des temps anciens posent encore de nombreuses questions. Qui furent les édificateurs et quelles sont leurs datations? Quelles furent leurs fonctions? Souvent, ces sites anciens ont été présentés comme étant de simples monuments funéraires. Mais n'y aurait-il pas autre chose? Quelles étaient en réalité leurs fonctions religieuses? N'y aurait-il pas une portée symbolique et sacrée qu'il convient de décrypter? Eh bien, c'est à toutes ces questions que je vous propose de répondre dans cette enquête que j'ai enregistrée en 2020, il y a 6 ans, et que j'ai décidé de vous partager librement sur YouTube. Alors, installez-vous bien et je vous souhaite une bonne émission. Nous allons donc passer maintenant au plan de l'émission, qui comme d'habitude va se découper en 5 parties. La première va traiter donc du mégalithisme dans son ensemble, c'est-à-dire définir un petit peu ce que c'est, définir les différents types de mégalithes, l'espace géographique duquel nous allons parler, la fonction des mégalithes et tout un tas d'autres aspects. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons aborder la chronologie de la civilisation dite mégalithique, voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace géographique qui va voir naître l'édification des mégalithes. En troisième partie, une fois que nous aurons maîtrisé un petit peu ce qu'est l'art mégalithique, puis la chronologie des événements, nous allons pouvoir aborder l'aspect technique de la culture des mégalithes, c'est-à-dire le mode de vie des populations, les méthodes d'édification de ces temples de pierre et plusieurs autres aspects, notamment au niveau de la fonction. Dans une quatrième partie qui sera assez rapide, nous parlerons un petit peu de certaines hypothèses et théories qui ont cours par rapport au sujet des mégalithes, certaines qui sont très hasardeuses, certaines qui sont un petit peu plus solides, et on tentera de voir ce que l'on peut dire un petit peu de ces différentes hypothèses et théories. Puis pour finir, la cinquième partie qui sera réellement un point de vue totalement personnel lié à ma recherche et mes analyses de cette question, je vous parlerai donc de mon point de vue sur la fonction, l'objectif et la symbolique de cette architecture mégalithique dans la cinquième partie que j'ai intitulée « Les temples d'éternité ». Puis je finirai bien sûr avec une bibliographie afin de vous proposer quelques ouvrages de référence sur la question qui pourront répondre à de nombreuses questions. En préambule, je tiens à vous rappeler certaines difficultés qui ont trait à l'étude de la culture des mégalithes. Tout d'abord, nous ne disposons pas de sources écrites. Les bâtisseurs de ces différents monuments ne nous ont pas livré de textes sur les méthodes d'édification ou la raison d'être même de ces monuments, et pas plus sur leur mode de vie courant. Cependant, il ne faudrait pas croire que nous ne connaissons rien de ces peuples bâtisseurs. Nous disposons de tous les vestiges archéologiques, les monuments eux-mêmes, les tombes, les anciens lieux d'habitat et tous les éléments dans le sol que nous ont laissés ces anciens peuples bâtisseurs. Donc, certes, la connaissance de la culture des mégalithes est imparfaite, mais aujourd'hui, avec la mise en commun des informations, nous arrivons à obtenir une vue globale, une perspective d'ensemble, encore une fois, de cette culture des mégalithes. Nul doute que les années à venir vont livrer d'autres informations permettant d'améliorer les détails, de peaufiner la connaissance encore une fois de cette culture, mais néanmoins, il ne faut pas sombrer dans la facilité de croire que nous ne connaissons rien sur cette civilisation. Certaines théories aujourd'hui sont encore un petit peu hasardeuses, mais néanmoins sont cohérentes par rapport à nos connaissances que nous avons de cette civilisation. Donc, la vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vision d'ensemble à l'état de nos connaissances actuelles sur la culture mégalithique, enrichie cependant de certaines perspectives personnelles par rapport à mes analyses de ce sujet que je vous livrerai en dernière partie de cette vidéo. Entrons maintenant dans la première partie de cette émission, à savoir le mégalithisme, avec plusieurs notions que nous allons aborder. Tout d'abord, la définition de ce qu'est l'art mégalithique, savoir un petit peu de quoi l'on parle. Ensuite, la localisation des sites, ou du moins l'espace géographique qui nous intéresse et qui comprend des mégalithes. Nous poursuivrons avec les différents types d'architecture, dolmen, menhir, cromlech, à découverte, savoir un petit peu quelles sont encore une fois les différentes spécificités de l'art mégalithique. Nous continuerons avec la datation des monuments, ou plus précisément les méthodes qui nous permettent de savoir de quand date un mégalithe et surtout de quand il ne date pas. Et nous terminerons cette première partie avec la fonction des mégalithes, la fonction des monuments, qui sera abordée succinctement dans cette partie puisque nous reviendrons en profondeur de ce sujet dans la dernière partie de cette émission. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter de nombreux sites mégalithiques à titre d'exemple qui reflètent une généralité bien évidemment, et chacun de ces sites sera présenté avec une illustration bien entendu, mais également une estimation de sa datation, donc de sa période de construction, par rapport aux données que nous possédons, ensuite de sa localisation, soit le pays, soit la région, suivant les cas, également quelques notions sur l'orientation ou du moins l'alignement par rapport au pôle de ces différents monuments, et quelques notions archéologiques sur les éléments retrouvés à proximité des sites ou des spécificités intéressantes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le mégalithisme ? Eh bien, ce sont des constructions, des édifices de pierre, faits avec des pierres d'ailleurs relativement volumineuses, qui appartiennent à l'architecture dite cyclopéenne. Alors, d'où ça vient ce terme cyclopéen ? Eh bien, les Grecs de l'Antiquité pensaient que ces anciens monuments, les monuments qui étaient faits de grosses pierres majestueuses, peut-on dire, furent bâtis dans des temps mythologiques par les cyclopes, d'où est venu le terme cyclopéen. Mais il faut bien comprendre que les Grecs de l'Antiquité qui ont employé ce terme de cyclopéen n'ont pas connu directement les bâtisseurs des mégalithes. De ce fait, ils ont fait entrer de facto ces constructions énigmatiques dans leur corpus mythologique, avec le terme cyclopéen. Bien sûr, ce ne sont pas des cyclopes qui ont bâti ces monuments, nous allons voir qui sont les bâtisseurs par la suite, mais encore une fois, l'art cyclopéen est en association avec le principe du mégalithisme, ces constructions gigantissimes faites de pierre. Alors, au niveau de la localisation, on trouve des mégalithes absolument sur toute la planète. Néanmoins, attention, nous sommes là face à une première difficulté. Il faut bien comprendre que le mégalithisme existe partout, néanmoins avec des variantes de style, d'époque, et sans qu'aucune filiation puisse s'établir dans la durée des différentes civilisations. Le mégalithisme d'Europe occidentale n'est pas le même mégalithisme qu'en Inde, n'est pas le même qu'en Asie du Sud-Est, et n'est pas le même que sur l'île de Pâques avec les célèbres Moai. Donc, mégalithisme est un terme générique qui définit un mode d'architecture avec de grosses pierres pour édifier un monument, mais cela ne reflète pas l'architecture spécifique et unique des dolmens, cromlech ou autres par exemple. Quand on emploie le terme de culture des mégalithes, on parle plus facilement en réalité de la civilisation d'Europe occidentale, qui comprend, comme je vous l'ai dit en introduction de cette émission, Espagne, Portugal, Italie, Corse, Sardaigne, Malte, Afrique du Nord, France, Royaume-Uni, Irlande, quelques éléments des pays scandinaves et d'Allemagne. C'est ce qu'on appelle la zone de diffusion du mégalithisme dans une période de date cohérente et dans un espace géographique cohérent. Comprenez bien que les mégalithes qui se trouvent par exemple en Corée ou au Japon sont aussi des mégalithes, mais ne sont pas datés de la même époque et ne sont pas en lien avec une civilisation qui est côtoyée la culture mégalithique dite ouest-occidentale. Donc, le terme culture mégalithique s'applique habituellement, dans le langage, à la culture ouest-occidentale. Nous estimons aujourd'hui que le parc mégalithique, enfin les vestiges du moins de ces différents monuments dans l'Europe occidentale, représentent approximativement 10% du parc proto-historique. C'est-à-dire que, en gros, 80% des monuments ont pu disparaître. Alors, comment est basée tout d'abord cette estimation ? Eh bien, c'est très simple. Il se trouve que les mégalithes se trouvent à peu près sur tout le territoire, je vais prendre l'exemple de la France que je connais mieux, mais avec les aléas de l'histoire, des guerres, de l'agriculture, de l'urbanisation, de nombreux monuments dits mégalithiques ont été détruits ou simplement ont été détruits ou leurs pierres réemployées pour faire de l'habitat. Donc il est tout à fait normal que dans les zones de grand urbanisme, comme par exemple les métropoles, les mégalithes aient littéralement disparu. Inversement, il reste de nombreux mégalithes dans les zones dites rocailleuses, montagneuses, etc. On voit en France par exemple que les régions du massif central des Pyrénées, des Alpes, mais également du Jura ou de la Bretagne, sont les territoires où il reste le plus de mégalithes quantitativement. Il est évident que dans les autres zones dites de plaine, il existait également des monuments mégalithiques, mais la plupart d'entre eux ont été détruits au gré des ravages du temps, tout simplement. Les études archéologiques estiment que le parc mégalithique proto-historique comprenait entre 50 000 et 100 000 monuments, ce qui est colossal, vous en conviendrez. De nos jours, il subsiste environ 10 000 exemples de ce type d'architecture, encore une fois dans l'Europe occidentale, c'est-à-dire Europe du Sud, de l'Ouest, du Nord, ainsi que des îles Corse, Sardaigne, Malte, Baléares. On estime également que ce nombre de 10 000 monuments existants est encore une fois supérieur au nombre de mégalithes global du reste de la planète, ce qui fait que cette zone géographique est la région la plus abondante en construction mégalithique du monde. On estime au niveau chronologique que ces constructions mégalithiques se placent dans une échelle de date comprise entre 5000 avant Jésus-Christ et 2000 avant Jésus-Christ. Bien qu'il est tout à fait possible que certains monuments aient été construits hors champ de cette chronologie. Il est possible que certains monuments aient été construits préalablement à 5000 avant Jésus-Christ, et d'autres exemples mégalithiques ont été, dans tous les cas, construits plus récemment que 2000 avant Jésus-Christ, comprenez dans cet espace géographique, car d'autres régions du monde vont construire des mégalithes dans des périodes bien plus récentes que l'âge du mégalithique de l'Europe occidentale. Mais avant de revenir sur ces questions de datation, il va nous falloir tout d'abord étudier les différents types de mégalithes ou l'architecture de ces monuments. Et nous allons commencer avec les plus connus et les plus nombreux, à savoir les dolmens et les cairns ou encore les allées couvertes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un dolmen ? Eh bien, il s'agit d'une tombe funéraire où, dans la plupart d'entre eux, nous allons trouver des vestiges, mais ce n'est pas le cas de tous les dolmens. C'est-à-dire que certains dolmens sont, semble-t-il, des tombes et d'autres, nous n'avons pas retrouvé de corps à l'intérieur, ce qui permet, encore une fois, de poser la question, ce que nous ferons par la suite. Ensuite, un cairn, eh bien, c'est un ensemble de plusieurs dolmens, avec donc plusieurs chambres funéraires qui sont reliées entre elles par des allées couvertes, couvertes par des grosses pierres. L'architecture classique d'un dolmen consiste à poser deux pierres verticales surmontées d'une troisième pierre horizontale qui permet de recouvrir l'ensemble. Quand on parle d'une allée couverte, eh bien, c'est quand on prolonge ce dolmen sur une surface plus ou moins étendue. Et quand on parle d'un cairn, eh bien, ce sont plusieurs allées couvertes qui mènent à plusieurs chambres dites dolméniques et le tout recouvert d'un tumulus, c'est-à-dire d'un amas de pierres et de terre qui donne l'aspect d'une sorte de petite colline artificielle plus ou moins imposante suivant les différents types de monuments. Alors certes, l'on peut définir un style global de la construction mégalithique dans l'Europe occidentale, néanmoins, il existe des spécificités régionales avec une architecture relativement différente. Pour prendre quelques exemples, il existe certains dolmens relativement simples qui ont les deux pierres de maintien totalement verticales, alors que d'autres fois, c'est incliné. Parfois, la chambre funéraire centrale est de forme triangulaire et d'autres fois, elle est de forme rectangulaire ou quadrilatère. Cela va varier suivant les différentes régions. D'autres fois, encore une fois, les dolmens sont plutôt petits, ne sont pas à hauteur humaine, et d'autres fois, ils sont gigantesques, encore une fois, encore plus cyclopéens, permettant largement à un homme d'entrer debout. On va observer que certains monuments sont éminemment plus complexes. Pour prendre l'exemple du cairn de Gavrinis, donc site bâti sensiblement entre 4000 et 3500 avant Jésus-Christ, nous avons une allée couverte qui permet d'entrer dans le tumulus, puis une chambre funéraire. Ce qui est intéressant, c'est que ce site porte des inscriptions à l'intérieur. Alors, comprenez bien, il ne s'agit pas de formes d'écriture, mais il s'agit de pétroglyphes, de sculptures directement dans la roche. Alors, nous ne connaissons pas exactement l'interprétation de ces différents symboles. Ils ont probablement une valeur théologique ou du moins en rapport avec le sacré, ou du moins peut-être la religion, les croyances du peuple bâtisseur. Néanmoins, nous ne connaissons pas avec exactitude ce que représentent ces différents symboles. On notera également la présence de cupules, c'est-à-dire de petits trous percés directement dans la roche, qui ont pour but de représenter des formes, peut-être des animaux, ou pour d'autres experts de la question, cela représente des constellations. D'ailleurs, cela nous amène à la question de l'alignement des monuments avec les phénomènes observables du ciel, c'est-à-dire les phénomènes de solstice et d'équinoxe. Il semble que la plupart des dolmens à découverte et cairns soient alignés sur des phénomènes de lever ou de coucher du soleil. Mais en réalité, il n'existe pas d'uniformisation entre les différents monuments. On va encore une fois voir des spécificités régionales. Par exemple, en Bretagne, la plupart des cairns sont alignés sur le lever du soleil au moment du solstice d'hiver. Donc, le soleil se lève à une certaine date de l'année, la lumière entre dans le monument et va frapper la pierre qui se trouve au bout de l'édifice, la pierre centrale, l'endroit le plus sacré du complexe mégalithique. D'autres fois, le monument est aligné sur les phénomènes de coucher du soleil, solstice ou équinoxe, encore une fois, il va y avoir des variables régionales, mais où on voit encore une fois des spécificités territoriales où tout le monde aligne son monument de la même façon, suivant ses différentes régions. Il existe néanmoins de nombreux monuments qui ne sont pas alignés sur les phénomènes de lever ou de coucher du soleil, ni même sur les équinoxes, mais en général, dans ces différents cas, on constate que le monument a dû s'adapter aux spécificités rocheuses de l'endroit de son édification, donc qui a pu faire dévier légèrement l'inclinaison ou du moins l'orientation du monument, ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait en conformité avec le phénomène de solstice ou d'équinoxe. Alors, ces éléments sont très importants parce que cela nous amène tout de suite à comprendre que ces sociétés donc de l'art mégalithique sont très liées avec ces phénomènes de lever et coucher du soleil, donc des sociétés agricoles qui vouent une importance au passage des saisons, typique donc d'une société sédentaire. Pour finir cette partie sur les dolmens, cairns et allées couvertes, notons qu'il existe des sites relativement simples et d'autres éminemment complexes, comme par exemple le complexe de Bardonnaise, qui possède plusieurs allées couvertes qui mènent à plusieurs chambres funéraires, ce qui en fait un édifice majeur. Et ça, c'est très important, puisque lorsque l'édifice est isolé et petit, l'on peut supposer que la communauté qui l'a édifié est relativement faible, ou du moins faible en densité de population. Alors qu'inversement, pour des cas comme Bardonnaise ou encore comme Gavrinis, cela suggère une communauté beaucoup plus organisée, plus importante, avec une densité de population suffisante pour pouvoir édifier ce type de monument. Ne nous attardons pas plus longtemps sur ce type de construction, nous reviendrons par la suite sur les fonctions et utilisations des différents dolmens, cairns et allées couvertes. Pour l'instant, continuons notre inventaire des différents types d'architecture mégalithique avec les menhirs et les alignements de menhirs. Alors, il y a un petit peu moins de choses à dire. Tout d'abord, la fonction et l'utilisation de ces monuments est beaucoup plus hypothétique que pour les précédents, et on les trouve de façon tout aussi nombreuses sur le territoire. Mais également, leur datation est plus complexe. Dans le cas des dolmens, cairns et allées couvertes, nous pouvons parfois trouver des sépultures, des vestiges, des parures, des bijoux, des objets qui permettent d'établir une datation de ces monuments. Alors que pour les menhirs, la plupart du temps, nous ne pouvons pas forcément établir de corrélation entre les vestiges retrouvés à proximité avec l'édifice lui-même. Donc, il est à supposer que l'architecture des menhirs soit en corrélation avec l'architecture des dolmens, cairns et allées couvertes. Ce qui, encore une fois, est néanmoins hasardeux. Il n'existe pas de consensus absolu qui permet de dater les menhirs, contrairement aux dolmens et autres sites vus préalablement. Alors, les menhirs possèdent des tailles totalement variables, hein, allant de 1 mètre de hauteur et d'une tonne, allant à des menhirs faisant 18 mètres de hauteur et faisant 280 tonnes, comme à Locmariaquer avec le grand menhir brisé. Donc, de la même façon que pour les dolmens, on peut suggérer qu'un mégalithe d'une importance colossale, comme le grand menhir brisé, a suggéré une communauté relativement importante pour son édification, alors qu'inversement, un petit menhir isolé d'un ou deux mètres de hauteur a suggéré une population moins importante pour son édification. On arrive de ce fait à la question suivante, qui est l'alignement de ces fameux menhirs, comme par exemple à Karnak. On voit qu'il y a plus de 2733 menhirs que l'on peut retrouver à l'état qui sont alignés dans différents complexes, sachant encore une fois que de nombreux exemples de ces menhirs ont probablement disparu avec le temps. Alors si l'on considère que seuls 10 à 20% des menhirs de Karnak ont subsisté, on peut supputer qu'il en existait peut-être 10 000 dans ce parc mégalithique. Alors de la même façon que pour les menhirs isolés, les alignements sont tout aussi difficiles d'interprétation. La raison et la motivation de l'édification de ces monuments est évidemment extrêmement délicate et on ne peut établir que des hypothèses à ce stade. Alors, les alignements existent un petit peu partout, hein, dans l'Europe occidentale, de la même façon, on va retrouver en Suisse, en Angleterre, dans les pays scandinaves ou encore en Espagne et en Italie. Il y en a de nombreux, même s'ils sont moins importants numériquement que les alignements de Karnak, bien entendu. Et cela nous amène justement au type suivant d'architecture mégalithique, à savoir le cromlech, qui est souvent une association avec l'élément du menhir. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un cromlech ? Eh bien, il s'agit d'un cercle de pierres plus ou moins important avec en son centre soit une pierre d'autel ou parfois un menhir. Alors, le plus connu d'entre eux est celui de Stonehenge que l'on va retrouver en Angleterre, mais ce n'est pas forcément un exemple très représentatif. Pourquoi ? Parce qu'il a été érigé sur une très très longue période temporelle allant de 2800 avant Jésus-Christ à 1100 avant Jésus-Christ, donc pendant le néolithique final et également pendant l'âge du bronze. D'autres cromlechs plus anciens sont de ce fait beaucoup plus représentatifs du style mégalithique dans leur ensemble. Alors, la fonction et l'interprétation des cromlechs est également relativement délicate. On peut remarquer assez facilement qu'ils s'orientent également sur des connotations astronomiques, donc solstice et équinoxe, donc lever et coucher du soleil à certaines dates, comme par exemple, encore une fois, dans le cas de Stonehenge, où la lumière est censée, à une certaine date de l'année, entrer dans certaines parties de l'édifice pour frapper certaines pierres. Et l'on peut se douter que d'autres cromlechs mégalithiques répondent exactement aux mêmes exigences. Alors, cela nous renvoie toujours à la connotation symbolique d'une société d'agriculteurs sédentaires qui voue une importance au passage du cycle des saisons pour les récoltes ou éventuellement les autres cérémonies sacrées. Il semble à ce stade, pour rester relativement simple, que le cromlech s'articule dans une connotation non pas funéraire, mais cette fois-ci dans une connotation donc de célébration par rapport à des cérémonies religieuses sacrées qui harmonisent le clan ou éventuellement plusieurs clans. Il est tout à fait possible que les cromlechs soient des monuments collectifs appartenant à plusieurs villages qui s'unissent dans la perspective de construire ce monument rituel religieux dans le but de cérémonies communes. On pourrait faire un parallèle intéressant avec différentes hypothèses qui sont établies à l'heure actuelle sur le monument donc des temples de Göbekli Tepe en Turquie, qui pourraient répondre un petit peu aux mêmes aspirations. Quittons les cromlechs quelques instants pour aller au type de mégalithe suivant, mais également l'un des plus récents, si l'on peut dire, qui est les statues menhirs. Alors, les statues menhirs, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un menhir, comme tous les autres, de hauteur variable et de forme également variable, mais qui est sculpté dans le but d'amener à une représentation, donc parfois anthropomorphe, mais parfois uniquement symbolique, comme par exemple une épée, une arme, une représentation diverse et variée, bien que la plupart des statues menhirs ont pour but de représenter des individus. Alors, pour ce qui est des statues menhirs, on va en retrouver encore une fois dans toute l'Europe occidentale, avec une énorme concentration dans des départements comme l'Aveyron, mais encore plus en Corse. Donc la Corse étant le territoire qui compte le plus de statues menhirs au niveau quantitatif. On va retrouver des styles relativement semblables, mais avec des iconographies en revanche variables. Si on voit toujours que ces statues menhirs sont assez grotesques dans leur représentation, la sculpture est relativement simpliste, on va néanmoins s'apercevoir qu'au niveau des représentations, il y a d'énormes variables suivant les spécificités régionales. Donc, en Corse, les statues menhirs semblent avoir une sorte de codification globale identique, et puis en Aveyron, elles ont une autre codification et un autre style qui va les caractériser. Alors, parfois, ces statues menhirs sont elles-mêmes placées en alignement, comme on va retrouver en Corse à Palagiu ou encore à Coria par exemple, où on va retrouver donc ces différentes statues menhirs alignées entre elles avec des hauteurs variables et des représentations également variables. Toujours en Corse, on va retrouver d'autres sites comme Filitosa, où cette fois-ci les statues menhirs semblent s'inclure dans un complexe mégalithique plus global, qu'on appelle un castrum, c'est-à-dire une sorte de citadelle fortifiée du néolithique, et les statues menhirs semblent encore une fois comme les gardiens du lieu, comme des héros statufiés ou des divinités statufiées qui s'arpentent tout autour de ce site ou intégrés directement dans le site. Donc les statues menhirs qui, au niveau des dates, vont s'orienter entre 3000 et 1000 avant Jésus-Christ pour la plupart de ces statues menhirs, avec toute la difficulté, encore une fois, de datation qui convient à ces monuments, puisque de la même façon que les menhirs, les statues menhirs peuvent difficilement être datables par rapport aux vestiges qui se trouvent à proximité immédiate. Bien sûr, l'on peut supputer de la même façon que l'art des statues menhirs est à mettre en corrélation avec l'art des dolmens, des cairns et des allées couvertes, qui sont les éléments les plus facilement datables de nos ensembles mégalithiques. Pour terminer donc les différents types d'architecture de l'art mégalithique, on va finir avec les hypogées. Alors, les hypogées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, il s'agit d'une cavité naturelle ou artificielle, donc taillée ou améliorée par l'homme dans certains cas, qui va servir de nécropole funéraire. Alors, les hypogées ne sont pas forcément eux-mêmes des mégalithes, puisque certaines fois, il s'agit simplement de cavités naturelles qui ont été creusées. Donc, il ne s'agit pas d'un art du bâti cyclopéen. Mais néanmoins, on va s'apercevoir que nombre de structures dites hypogées vont correspondre au niveau échelle de date avec l'architecture des cairns, dolmens et allées couvertes. De ce fait, on va voir que l'usage des dolmens ne remplace pas totalement celui des hypogées, et donc nous allons inclure dans notre étude certains types d'hypogées qui ont été utilisés dans la fourchette de date de l'art mégalithique et qui ont dans certains cas été un petit peu bâtards entre le style naturel et le style d'art mégalithique, puisque certains vont avoir des pierres pour obstruer l'entrée, ou encore une fois une entrée naturelle qui va être resculptée avec l'ajout de pierres extérieures, ce qui fait que certains hypogées peuvent entrer dans la catégorie de l'architecture mégalithique dans certains cas. Alors, on a un exemple tout à fait frappant avec l'hypogée de Al-Salfieni qui se trouve sur l'île de Malte, donc un site naturel travaillé par l'homme, donc creusé et taillé par l'homme à l'intérieur, où on va retrouver, comme à Gavrinis, de nombreuses représentations pétroglyphiques, donc des sortes de fresques de fresques que l'on va retrouver sur les pierres et d'autres cupules qui permettent d'établir une certaine notation d'iconographie sacrée dans ce monument. Donc il sera utilisé entre 3300 et 2500 avant Jésus-Christ de façon relativement différente et le site sera réemployé par la suite par les peuples indo-européens et même par phéniciens et romains mais sous une autre forme, même si le monument, encore une fois, servira encore de nécropole par la suite. On a un site très intéressant qui se trouve en France, donc qui se trouve en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas très loin d'Arles. En fait, il s'agit de plusieurs sites qu'on appelle les hypogées d'Arles, avec le plus connu qui est l'hypogée de les hypogées de Fontvielle, avec le plus connu qui est ce qu'on appelle celui de la fée de Cordes ou encore de l'épée de Roland. Donc celui-ci est très très intéressant parce que c'est un hypogée, donc comprenez une nécropole funéraire. Mais sauf que celle-ci ne semble pas avoir servi de nécropole funéraire. En réalité, il existe plusieurs complexes hypogées dans ce secteur, mais seul l'un d'entre eux n'a pas servi de nécropole funéraire. Et ce qui nous amène à se poser la question de l'utilité et de la fonction de ce site. Voilà pourquoi j'ai décidé de les inclure dans mon étude du mégalithisme ce jour. Alors maintenant, nous allons poursuivre avec les méthodes de datation de ces différents monuments. La première difficulté est le fait que l'on ne peut pas dater la pierre, du moins on ne peut pas dater sa date d'édification. On ne peut dater la pierre que sur un aspect géologique, donc la période de sa création hein, sur le plan géologique encore une fois, mais à aucun moment on ne peut dater à partir de quel moment une pierre spécifique a été mise dans un monument pour sa construction. Donc là est la première difficulté. Néanmoins, on a tout un tas d'autres éléments qui vont nous permettre d'aborder la datation des mégalithes. La première, ce sont les résidus de pollen et de charbon retrouvés à proximité des sites ou dans les sites. Certaines fois, il reste des vestiges donc, d'éléments pollen qui vont être à l'intérieur du site ou directement sous les pierres ou même au sein de l'architecture du site, dans le tumulus. Car je vous rappelle que par exemple dans le cas d'un dolmen, il s'agit de deux pierres verticales, une pierre horizontale, mais autour il y a un remblai de terre, de pierre, et ce qui forme une petite colline artificielle. Or, à l'intérieur même de cette colline artificielle, on va trouver des résidus de charbon, de pollen et parfois même d'autres éléments. Et ceux-ci sont datables, ce qui nous permet donc d'établir une datation pour l'édification du site. Le deuxième point est la méthode de thermoluminescence. Les pierres peuvent être datées, ou certains éléments rocheux peuvent être datés à partir de leur dernière exposition à une forte chaleur. Il se trouve que lors de l'extraction des pierres des carrières, certaines ont été soumises à des éléments combinés d'eau et de feu pour fissurer en fait la pierre afin de pouvoir l'extraire du sol. Et donc parfois, dans certaines circonstances, nous pouvons dater le moment où cette pierre a été exposée à une forte température. Donc ce qui permet encore une fois de donner quelques éléments de datation pour l'extraction des pierres. Ensuite, l'autre élément, et pas des moindres, c'est la présence d'habitats humains à proximité des sites. Comprenez bien que s'il y a un site construit, cela veut dire qu'il y a des humains qui vivent dans une proximité immédiate de ce site. Donc si l'on détecte la présence d'un village humain, d'un habitat, de vestiges funéraires et autres, eh bien on peut supputer une ancienneté possible de l'édification de ce site. S'il n'y a pas de présence humaine à une date donnée, on ne peut pas dire que ce site a été bâti dans cette fourchette de date. Autre chose, ce sont les corps des défunts et des offrandes. Les monuments type dolmen, cairn et allée couverte ont servi dans une majorité des cas de tombeaux funéraires. De ce fait, on peut retrouver à l'intérieur les différentes offrandes pour le défunt qui nous permettent encore une fois via les datations au carbone 14 d'avoir une échelle de date pour l'utilisation du monument. Mais cette fois-ci, j'insiste bien sur le point de l'utilisation. Car nous savons que dans un aspect funéraire, les dolmens, cairns et allées couvertes, ont été utilisés pendant une très large période temporelle. Donc il est tout à fait possible qu'un site soit plus ancien que les corps retrouvés à l'intérieur, et notamment à cause d'une pratique qui avait lieu à l'époque, qui consistait à vider les tombeaux périodiquement. Pourquoi ? Le clan pouvant changer, peut-être lutte interne, souvenir perdu des anciens, qui fait qu'on a enlevé certains vestiges pour en remettre d'autres à l'intérieur. Comment sait-on cela ? Eh bien tout simplement parce qu'on a des lieux de décharge. On voit qu'à côté de certains lieux mégalithiques, eh bien, il y a eu une grande quantité d'ossements qui ont été bazardés à proximité immédiate du site à une époque donnée et que les vestiges retrouvés à l'intérieur du monument sont-elles plus récentes, parfois de centaines, parfois de plusieurs centaines d'années. Donc ce qui permet encore de voir ces décharges régulières de certains sites mégalithiques, ce qui n'est pas le cas de tous. Autre point par rapport au corps des défunts pour la datation, eh bien, certains sites mégalithiques étaient totalement fermés. C'est-à-dire qu'une pierre pour obstruer l'entrée a été placée, ne formant à la fin qu'un tumulus, donc une petite colline artificielle, et donc qui a été totalement inviolable de présence humaine. Donc cette fois-ci, nous savons que les corps n'ont pas été vidés, et donc on peut arriver à une utilisation primaire du document et sa fermeture à une époque donnée. Et puis, la dernière des éléments pour la datation, et la plus délicate, c'est l'étude des styles de construction, puisqu'on peut voir dans certains monuments qu'ils répondent à un certain style, et donc à une certaine époque. Et donc, par association, on peut estimer que d'autres sites qui, eux, ne sont pas datables, répondent au même style, et donc on peut les inclure dans une fourchette de date de construction. Alors, pour vous montrer un exemple concret de datation d'un monument, on va parler du tumulus de Bougon, qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Alors, ce site est daté, donc entre 5000 et 4700 avant Jésus-Christ pour le début de sa construction, ce qui en fait, précisons-le, l'un des plus anciens mégalithes connus. Il est localisé donc dans le sud des Deux-Sèvres. Au niveau de ses orientations, c'est totalement variable, puisque certains sites ont des entrées, l'entrée des allées couvertes se trouve au sud, certaines fois elle se trouve à l'ouest, et d'autres fois à l'est, et d'autres fois au nord. Donc on retrouve absolument tout le calendrier de l'orientation possible sur ce site. Donc ce qui permet de faire tomber un petit peu le fantasme d'une vision totalement globale sur l'orientation de ces sites. Même s'il est vrai, encore une fois rappelons-le, que la plupart des sites avec des spécificités régionales, vont répondre aux notions de solstice et d'équinoxe. Cela n'est pas une généralité absolue, ce que nous montre le cas spécifique du tumulus de Bougon. Alors, le tumulus de Bougon est bien connu parce qu'il a livré énormément de vestiges. Aujourd'hui, il existe un musée, bien sûr, qui va faire des reconstitutions de l'habitat par rapport aux données archéologiques duquel nous disposons, mais ont été extractés du sol, tout d'abord, des corps dans les différents nécropoles, mais également de nombreux vestiges, vestiges de flèches, de silex, de pierres taillées du néolithique, mais également d'outils agricoles, comme les arères, mais également les houes. On va retrouver également des vestiges humains, hein, ça je vous l'ai dit, on a trouvé plusieurs corps, enfin de nombreux corps dans les nécropoles funéraires, mais on va trouver également des poteries et autres céramiques qui nous permettent d'avoir une chronologie de l'utilisation du site et de son occupation. Puisque, précisons-le, le site était occupé depuis le paléolithique, hein, puisqu'on va retrouver des présences d'hominidés qui ont bien précédé la période mégalithique, mais néanmoins, on peut voir la période de sédentarisation du site, et donc ce qui nous livre de nombreuses informations sur les époques possibles de construction du complexe mégalithique et surtout de son utilisation, ainsi que le mode de vie des populations qui résidaient à proximité du site. C'est donc la mise en commun de toutes ces différentes méthodes de datation, que ce soit pollen, charbon, mais également thermoluminescence, habitat humain, vestiges funéraires et autres éléments de l'habitat, qui nous permettent donc d'établir la chronologie et la datation de ces différents monuments. Donc il ne faut pas dire que l'on ne peut pas dater ces monuments, cela est absolument faux. Il est vrai que nous ne pouvons pas dater la pierre, mais nous disposons de tout un tas d'autres méthodes, et le tout étant de les mettre en commun afin d'obtenir des résultats cohérents. Ensuite, passons à cette dernière partie de la première partie de l'émission, à savoir la fonction des mégalithes, qui va rester relativement succincte, puisque nous allons aller en profondeur de ce sujet dans la dernière partie. Alors tout d'abord, quelles sont les fonctions des mégalithes que l'on peut attester ou poser du moins en question? Tout d'abord, lieu de sépulture individuelle ou collectif pour les dolmens et les hypogées. Eh bien, ceci est attesté, mais pas dans l'unanimité des cas. On peut, à ce stade, considérer qu'entre 50 et 80% des complexes dolmens ont été utilisés en tant que nécropoles funéraires. Pour citer deux exemples, je vais vous parler donc de l'allée couverte de Saint-Eugène dans l'Aude. Donc c'est un édifice qui a été fouillé il y a relativement longtemps, qui a subi d'autres fouilles depuis, et qui nous a livré plus de 300 vestiges d'individus, donc 300 défunts, qui étaient enterrés dans le site, ainsi qu'un très riche mobilier qui permet donc de dater le site, d'établir sa chronologie et donc son utilisation pour une population qu'on peut considérer relativement importante. Alors bien sûr, tous les corps ne datent pas de la même époque, ce qui permet encore une fois aussi d'établir la chronologie de la civilisation qui habitait à proximité, puisque le site a été occupé pendant plus de 1500 ans. Ensuite, nous avons, pour l'exemple, la nécropole de Cousse à Bazoges-en-Parennes, en Vendée, qui nous a livré de nombreux ossements, mais où l'on peut constater ces fameuses phases de décharge, puisqu'on voit en fait une zone de décharge des anciens corps, qui sont plus anciens, qui nous permet donc de dater le monument au niveau des corps les plus anciens qui ont été vidés et non pas des corps présents dans la dite nécropole. Donc ça, c'est très intéressant pour montrer encore une fois le réusage des sites périodiques et donc de montrer que les défunts qui occupent le site ne sont pas forcément contemporains de sa construction. Poursuivons avec un autre élément sur la fonction possible des mégalithes, qui est celui donc d'une architecture dite sacrée. Pour le cas des dolmens, on va arrêter assez rapidement sur la notion phallique, la notion aussi de l'axis mundis, qui permet encore une fois de relier les énergies de la Terre aux énergies du ciel, dans un schéma cosmogonique possible de ces peuples de la proto-histoire. Donc le symbole du menhir serait donc avant tout un symbole masculin de pouvoir, de fertilité. Élément d'ailleurs symbolique que l'on va retrouver très longuement, puisque même après la fin de l'édification des menhirs, les rituels à aspect de fertilité seront toujours de rigueur sur les sociétés qui vont vivre dans les espaces mégalithiques, même s'ils ne sont pas les bâtisseurs des mégalithes. On va retrouver ça avec les Celtes, mais on va retrouver également ça dans le Moyen-Âge européen, où des femmes venaient se frotter, si l'on peut dire, sur le mégalithe, dans le but de s'assurer une bonne fertilité. Inversement, avec les dolmens ou autres hypogées, on peut donner une connotation cette fois-ci féminine, donc ou chthonienne si vous préférez, donc liée aux énergies de la Terre. C'est une sorte de grotte artificielle, si l'on peut dire, qui nous amène dans les profondeurs dans la Terre, dans les profondeurs de la Terre, dans le monde des morts. Ce qui a aspect évidemment à la Terre nourricière, la Terre qui donne la vie, une sorte de retour à la matrice primordiale. Le fait d'enterrer les défunts dans ces grottes naturelles, travailler comme les hypogées ou de ces grottes artificielles comme les dolmens, est d'une certaine façon un retour symbolique dans le ventre de la mer, et donc, encore une fois, dans un aspect d'un culte chthonien. Donc, avec cette dualité, pouvoir masculin matérialisé par le menhir et pouvoir féminin matérialisé par le dolmen ou l'hypogée. Ensuite, continuons avec les statues menhirs, donc, qui peuvent prendre la forme d'effigies. Alors, peut-être que ces statues représentent des individus, des héros, statufiés pour l'éternité, dans le cadre d'un culte des ancêtres, qui est donc pour matérialiser la protection du clan. Donc cet ancêtre mythifié, ou statufié plus exactement, pourrait, par cet édifice éternel, assurer la protection du clan ou matérialiser son souvenir. Donc on peut être sur une sorte de cénotaphe, donc une sorte de pierre de mémoire, ou encore une fois, d'une effigie sacralisée ou éventuellement divinisée. Peut-être que ces statues menhirs représentent également des divinités, mais ça c'est très difficile de pouvoir l'établir avec certitude. Notons quand même que pour les statues menhirs, il existe des représentations aussi bien féminines que masculines, il ne semble pas y avoir une discrimination sexuelle par rapport à ces différentes représentations, puisqu'on trouve de très très nombreuses statues menhirs représentant des femmes. On voit donc par exemple sur sur ces représentations, donc des habits, ceintures, autres éléments donc guerriers, épées, boucliers ou anneaux, qui encore une fois pourraient aller dans le sens du héros divinisé, statufié, assurant la sauvegarde possible du village ou du moins de l'espace de l'habitation. Ensuite, poursuivons avec les cromlechs. Alors, pour leur symbolique, cela est plus complexe, puisqu'on ne peut pas parler, bien sûr, de nécropole funéraire. Certes, certains ossements ou vestiges humains ont été trouvés à proximité, mais on ne peut pas dire, encore une fois, qu'ils sont contemporains de l'édification du site. Il est tout à fait possible que certains peuples ultérieurs aient enseveli leur mort à proximité de sites sacrés, mais il est beaucoup plus probable que le cromlech, pour sa part, faisait surtout office de centre de célébration à connotation rituelle, pour matérialiser les grandes célébrations de l'année, les événements comme les solstices, les équinoxes, auxquels ils sont, duquel ils sont d'ailleurs orientés, matérialisant probablement ces grands passages de l'année rituels fondamentaux pour une société sédentaire agricole. Donc il est probable que les cromlechs s'incluent dans un cadre de cérémonie rituelle liée aux croyances de ces peuples. Et pour terminer, finissons avec l'hypothèse du bornage, donc pour ces fameux menhirs ou éventuellement statues menhirs dans certains cas, qui ont pu éventuellement marquer des croisements, marquer des territoires ou marquer éventuellement des lieux importants de la vie des populations qui y résidaient. Pour faire un comparatif assez simple, on pourrait parler aujourd'hui des calvaires. Donc les calvaires, dans la culture chrétienne, chrétienne européenne, ce sont des sortes de stèles orientées d'une croix qui ont pour but de matérialiser un carrefour, une route, une zone spécifique, religieuse, sacrée ou autre. Et certains menhirs ont d'ailleurs été réemployés dans le cadre de cette christianisation, réemployés en tant que bornage. Donc, il n'y a qu'un pas pour supposer que ces anciens édifices mégalithiques ou stèles menhirs ont pu éventuellement, à leur époque, servir de bornage de territoire, de frontière, de parcelle, etc., etc. Cela reste évidemment une hypothèse, mais cela est tout à fait cohérent au vu des pratiques ultérieures des populations qui vont suivre. Nous en avons terminé avec cette première partie un petit peu longue, mais qui me semblait absolument nécessaire afin de bien appréhender la culture mégalithique sur ses différents aspects. Donc, riche de toutes ces informations, nous pouvons dater les monuments, nous pouvons constater les différents éléments archéologiques qui gravitent autour, l'habitat, etc. Et maintenant, nous allons pouvoir entrer dans la deuxième partie qui va nous permettre d'établir la chronologie de cette civilisation. Nous allons remonter à une période qui précède l'apparition des mégalithes jusqu'à la période de fin de la civilisation dite des mégalithes. Nous allons voir qu'il y a de nombreux bouleversements au cours de cette période et nous allons tenter d'identifier un petit peu ces différentes phases avec le début du mégalithisme, son âge d'or et son déclin progressif via plusieurs phénomènes extérieurs. Et nous allons également voir le passage à la sédentarisation, au néolithique, mais également avec l'apparition de la métallurgie du cuivre et du bronze, ce qui nous amènera à la fin de la chronologie de la culture mégalithique. Dans cette deuxième partie, nous allons faire un découpage chronologique des événements. Tout d'abord avec le paléolithique ouest européen, ou si vous préférez la préhistoire. Ensuite, nous poursuivrons avec le tardénoisien, qui est la première phase mésolithique, c'est-à-dire de semi-sédentarisation. L'homme est encore chasseur-cueilleur, mais avec des habitats occasionnels. Ensuite, nous parlerons des cultures cardiales et rubanées. Puis nous poursuivrons avec le véritable néolithisme européen, avec la culture chassène, ou du moins la sédentarisation durable. Nous poursuivrons avec les différentes phases de la culture campaniforme et ses différents aspects. Puis nous terminerons avec la fin du mégalithisme, sensiblement entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, soit pendant la période de l'âge du bronze. Alors au niveau de la préhistoire européenne, les hominidés sont présents depuis relativement longtemps. Il y eut plus tard l'homme de Néandertal qui s'est implanté dans la région, puis plus tard l'homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres. L'homme de Néandertal disparaîtra, mais néanmoins il y aura un certain brassage culturel avec sapiens, puisque dans nos lignées actuelles, nous conservons une certaine partie de gènes néandertaliens qui a survécu à hauteur de 2 à 4% suivant les individus. Donc ce mixage génétique étant spécifique à l'Europe occidentale, qu'on va retrouver également dans le Caucase et jusqu'en Asie, mais que l'on ne va pas retrouver en Australie ou en Afrique par exemple, à des endroits où l'homme de Néandertal n'était pas présent. Alors, ensuite, nous entrons dans la phase qu'on appelle de l'art pariétal. Donc l'art pariétal, c'est quoi ? Eh bien, c'est les moments où l'homme va occuper de façon occasionnelle certaines grottes et va y établir les premiers balbutiements de son art pictographique, où il va représenter des animaux, des scènes de chasse et d'autres éléments de l'imagerie dans ces grottes. Alors parmi les plus connus, on pourrait citer les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet ou encore d'El Castillo en Espagne, l'une des plus anciennes d'ailleurs, celle d'El Castillo. Et donc on voit en fait que cet art pariétal va se répandre en Europe occidentale pour ses premières phases. Alors de la même façon que pour le mégalithisme, l'art pariétal existera sur toute la planète, mais à des époques variables de civilisations qui ne se sont pas spécifiquement côtoyées. Et ce que l'on remarque, c'est que l'implantation des plus anciennes représentations de l'art pariétal sur Terre sont localisées dans cette Europe occidentale, donc des phases comme l'Espagne du Nord, la France du Sud, Provence, etc., une partie de l'Allemagne, etc., tout ça, et de l'Europe centrale. Donc on voit en fait que l'art pariétal se localise grossièrement, entendez-moi bien, hein, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, grossièrement sur le territoire du futur mégalithisme. Donc il ne s'agit pas d'établir une corrélation directe entre l'art pariétal et le mégalithisme, bien sûr, il s'agit simplement de considérer que les artisans de l'art mégalithique seront de lointains descendants, si l'on peut dire, de ceux qui vont établir l'art pariétal. Alors, on va avoir des représentations de haut niveau technique. Hein. Plus on avance dans le temps, plus on va voir que ces imageries sont perfectionnées, si l'on peut dire, avec des exemples comme Lascaux ou Niaud, qui sont qui représente quasiment la quintessence de cet art pariétal. Donc pour Lascaux, on est sensiblement à 17 000 ans avant Jésus-Christ, et pour la grotte de Niaux, on est sensiblement en 12 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, l'homme est encore un chasseur-cueilleur. Il vit donc au gré du climat, au gré de son gibier et au gré de sa cueillette. Donc par rapport aux différents changements climatiques hein, qui brassent beaucoup et qui provoquent de nombreuses migrations de population. Puisque je vous rappelle qu'à cette époque, on est encore dans ce qu'on appelle un ère glaciaire, donc la glaciation de Wurm, qui est en phase descendante. C'est-à-dire qu'il y a un réchauffement climatique et une montée des eaux qui s'annonce à partir de sensiblement 18-20 000 ans avant Jésus-Christ, donc en plusieurs phases, hein, etc., qui va aboutir à ce qu'on appelle le Dryas récent. Donc la fin de la montée des eaux va se terminer sensiblement entre 10 000 et 8500 avant Jésus-Christ. Donc pendant cette époque préhistorique de chasseurs-cueilleurs, l'homme, encore une fois, n'a pas d'habitat durable. Il possède déjà un outillage de silex avec les bifaces, il possède les javelots à propulseurs, donc il a déjà commencé à développer un outillage qu'on peut dire perfectionné. Mais néanmoins, il ne s'installe pas durablement car il ne maîtrise pas encore l'agriculture et ne maîtrise pas encore l'élevage. Nous poursuivons avec la phase suivante, le Dardénoisien, qui va recouvrir une bonne partie de l'Europe occidentale, principalement France, Allemagne et nord de l'Espagne ainsi que la côte méditerranéenne espagnole. Alors comprenez qu'il existe d'autres cultures équivalentes qui sont équivalentes hein, dans les régions associées, mais c'est cette culture-là qui va nous intéresser puisqu'elle sera basée sur la zone géographique de l'implantation des premières zones dites mégalithiques. Alors le Dardénoisien n'est pas à proprement une culture sédentaire. C'est-à-dire qu'on est encore sur des habitants, donc des populations de chasseurs-cueilleurs qui vont développer des premières formes d'habitat occasionnels. Donc notamment, on avait déjà l'exemple des grottes qui étaient des habitats occasionnels, mais qui étaient vraiment, vraiment très occasionnels, si l'on peut le dire, alors que là, on va quand même développer des habitats un peu plus durables, mais pas forcément en solide. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des constructions de bois ou de pierre, ce sont plutôt des tentes que l'on pose à un certain endroit pendant 6 mois de l'année, et puis que l'on va bouger par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle la phase du mésolithique ou de la sédentarisation partielle. Au niveau chronologique, le Dardénoisien, s'établit dans une fourchette de date allant de 10 000 avant Jésus-Christ ou de 5000 jusqu'à 5000 avant Jésus-Christ. Donc, encore une fois, de cette néolithisation partielle, un passage progressif entre le paléolithique, la préhistoire, et la phase de la protohistoire du néolithique. Alors, quelques caractéristiques, on voit des objets qui vont commencer à devenir plus raffinés, plus travaillés, et notamment les développements de l'arc qui est utilisé en grande quantité. Il y a certains éléments qui ont permis à l'homme de changer son mode de vie, et qui n'est pas forcément de son fait. C'est dû à cette fin de la glaciation de Wurm, donc la fin du Dryas récent, donc montée des eaux, mais également réchauffement du climat de ce secteur. Ce qui a fait que certains gibiers, qui étaient les proies habituelles des populations précédentes, n'existent plus. On va voir progressivement la disparition de certains animaux de grande taille, comme l'ours des cavernes, mais également les bisons qui disparaissent progressivement, les aurochs qui disparaissent également progressivement, mais ainsi que les mammouths, par exemple, qui vont être remplacés par les cerfs, des ours de taille plus modeste, et d'autres bovins divers et variés. Donc, il va faire que le gibier se retrouve un petit peu plus facile d'accès, mais doit également être chassé plus régulièrement. Pour les peuples de chasseurs-cueilleurs, quand vous tuez un mammouth, ça vous pouvez vous nourrir un village pendant toute l'année. Alors qu'inversement, quand vous tuez un cerf, eh bien, il va falloir en tuer plusieurs pour pouvoir nourrir la population. Donc on va voir que les besoins de chasse doivent être plus rapides, plus instantanés, et donc suggèrent de mieux maîtriser son environnement. On voit également qu'il y a un changement dans les ressources primaires de la cueillette et de la collecte, qui vont varier évidemment avec la modification du climat. Donc c'est vraiment cette phase intermédiaire qui est très intéressante, mais à cette époque, on ne construit pas encore de mégalithes. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire, pour pouvoir avoir l'organisation sociale, les ressources et le temps pour construire un mégalithe, il faut passer au stade de la sédentarisation. Alors, au niveau des rites funéraires, à cette époque, on pratique majoritairement l'inhumation en nécropole, donc des sortes de tumulus collectifs, qui sont sensiblement, en fait, les ancêtres des mégalithes. C'est juste qu'il n'y a pas l'élément de pierre qui y est ajouté, ou du moins pas de pierre cyclopéenne. On va simplement établir un tertre funéraire, y ensevelir les corps souvent en position fœtale, avec certains objets qui leur ont appartenu, ce qui nous permet de dater les sites via les corps et via les objets retrouvés, et qui nous permet donc d'établir que le mode funéraire n'est pas encore de type mégalithique, puisque les corps, comprenez-le, peuvent être datés de cette période mésolithique qui précède l'invention des dolmens. Un autre changement intervient sensiblement au cours du 6e millénaire avant Jésus-Christ avec les expansions des cultures cardiales et rubanées. Alors, comment cela se passe ? Le néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation, va apparaître sensiblement en Anatolie et au Proche-Orient, sensiblement entre 10 et 8000 avant Jésus-Christ. De là vont se produire deux phénomènes. Le premier, qui est un phénomène de migration, des personnes vont migrer de territoire et s'installer dans d'autres territoires, vont emmener avec eux leur mode de fonctionnement social et donc leur connaissance de l'agriculture et de l'élevage. Donc on va observer deux vagues de migration qui vont avoir lieu. L'une qu'on appelle rubanée, qui va passer donc aux alentours de la mer Noire, puis qui va suivre la route danubienne, passant par l'Allemagne, pour arriver en France du Nord et de la Bretagne. Donc avec un cheminement qu'on peut établir via les vestiges funéraires, notamment partant d'Anatolie et puis se déplaçant progressivement jusqu'en Bretagne. Alors, comprenez bien, il ne s'agit pas de considérer un individu lambda qui est parti d'Anatolie pour arriver en Bretagne, il s'agit de considérer une implantation progressive sur de nombreuses générations, sur une durée de temps d'environ 2 millénaires, qui permettent d'aboutir à cette lente migration. Et on va voir un autre chemin de migration plus au sud, celle-ci qui va passer par la mer, donc il va s'établir en Grèce, il va s'établir en Italie, puis progressivement sur les îles de Corse et Sardaigne, puis sur le Languedoc, l'Espagne et l'Andalousie, donc dans une période de date sensiblement de 2 millénaires, de la même façon. Alors, ces deux cultures sont relativement proches, on les dissocie par leur style de céramique qui est différent, mais néanmoins au niveau des rites funéraires et au niveau des aspects culturels, cela est relativement semblable. Néanmoins, il ne faut pas oublier un deuxième phénomène qui s'accompagne du premier. La migration de population existe, mais elle est néanmoins légère. Pourquoi ? Puisqu'on ne constate pas de remplacement de population sur les peuples cibles. C'est-à-dire que si prenons l'exemple de la population française, enfin du territoire de la France, mais de l'époque, on ne va pas considérer qu'il y a un remplacement de la population par une autre population. Donc, certes, il y a des migrations, mais relativement légères. C'est un autre phénomène qui sera en cause des modifications culturelles, celui qu'on appelle l'acculturation. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare ? Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'une connaissance, une compétence va se diffuser. Si vos voisins se mettent à pratiquer l'agriculture, eh bien, au bout d'un certain temps de contact via le commerce notamment et les échanges ou les rencontres, vous allez copier leur mode de fonctionnement. Vous allez intégrer leur savoir et le développer par vous-même. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'acculturation, où une culture va copier une culture voisine, ou du moins s'inspirer de certains de ses éléments pour développer sa propre culture. Donc, nous avons le double phénomène d'acculturation progressive des populations, mais également de migration. Sur le secteur de l'Europe occidentale, préalablement, l'haplogroupe génétique dit majoritaire en lignée masculine, donc l'haplogroupe lignée Y, c'était l'haplogroupe I2. Et il se trouve que via les migrations, nous allons avoir un apport d'un autre haplogroupe venant donc d'origine d'Anatolie qui s'appelle le G2A. Donc, au moment de l'installation, enfin du moins de l'expansion des cultures cardiales et rubanées, ces populations migrent et via le phénomène d'acculturation, nous arrivons à une population mixte entre les allochtones et les autochtones qui va aboutir progressivement, qui aboutit à la sédentarisation du secteur sous le nom de culture, peut-on dire, chasséenne. Alors, on trouve le chasséen méridional, donc plutôt méditerranéen, puis le chasséen septentrional, qu'on va retrouver plutôt au nord. En réalité, on va employer tout un tas de noms de cultures spécifiques. Là, vous voyez sur cette carte l'expansion de la culture en jaune, culture rubanée, et en vert, culture cardiale, et puis en 5500 avant Jésus-Christ, puis 500 ans plus tard, on voit que les cultures rubanées et cardiales ont pris l'ascendant sur le territoire. Cela ne veut pas dire qu'il y a plus de migration de population, cela veut dire encore une fois que par le phénomène d'acculturation, les compétences se sont développées. Et on voit également en rouge les cultures locales qui n'ont pas subi les vagues de migration d'haplogroupe G2A, mais néanmoins qui, par le phénomène d'acculturation, vont développer quelque chose d'équivalent avec la sédentarisation. Alors, quand on arrive sensiblement à 4500 avant Jésus-Christ, la sédentarisation est bien installée. Alors, la sédentarisation, comprenez-le, commence avec les cultures cardiales et rubanées, et en réalité, certains soupçons de sédentarisation ont pu exister préalablement, mais de façon extrêmement modeste et localisée. Donc, considérez que l'Europe occidentale s'est sédentarisé, donc est passé dans la phase du néolithique ancien à partir sensiblement de 5000 à 5500 avant Jésus-Christ. Quand on arrive donc 1000 ans plus tard au Chacéen, la sédentarisation est bien implantée. C'est la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage dont nous allons reparler plus tard dans le mode de vie de ces populations. Donc le Chacéen forme ce qu'on appelle le néolithique moyen. C'est des poteries et des céramiques spécifiques, certains modes de trait culturels, certains outils, bijoux et autres qui vont permettre, encore une fois, d'identifier le type culturel du Chacéen. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pendant cette période que va avoir lieu l'essor du mégalithisme. Puisque les mégalithes ont commencé à être bâtis sensiblement pour les plus anciens connus environ vers 5000 avant Jésus-Christ, donc qui vont faire suite à l'installation des cultures cardiales et rubanées, et donc le début de la sédentarisation. Inversement, l'âge d'or du mégalithisme se place sensiblement entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, donc pendant la période du Chacéen. Donc le moment où la sédentarisation est parfaitement répandue. Donc comment se passent les événements suivants ? Donc l'apogée du mégalithisme, environ 4000 à 3000 avant Jésus-Christ, à cette époque nous sommes encore donc, dans la phase du néolithique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métallurgie en Europe occidentale. La métallurgie du bronze a déjà commencé en Anatolie et au Proche-Orient, mais également dans la culture de Vinča en Europe balkanique, mais pas encore en Europe occidentale. À cette époque, donc, on voit vraiment que c'est le foisonnement mégalithique, puisque la plupart des mégalithes vont être construits entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, donc pendant la période chacéenne, encore une fois. On va suivre notre ligne chronologique en passant avec l'apport de la culture campaniforme et un nouveau phénomène culturel. Donc, sensiblement entre 3000 et 2900 avant Jésus-Christ, il va se produire un événement en Europe balkanique et en Europe orientale qui est la migration des peuples indo-européens, donc la première grande migration indo-européenne qui arrive sur l'Europe, donc ils viennent d'origine du Caucase et des populations des steppes. Hein. Donc on donne de façon générique le nom de culture des haches de combat à ces populations indo-européennes qui arrivent. Alors pour faire une petite dissociation génétique, en Europe occidentale, vous trouvez à ce stade une majorité de populations d'haplogroupe I2 et G2A, et puis les Indo-Européens, eux, s'identifient par l'haplogroupe R1B et R1A, en l'occurrence. Alors, cette population indo-européenne dite des haches de combat, ou des vases en entonnoir, arrive sur l'Europe orientale à partir de sensiblement 3300-3000 avant Jésus-Christ, et ce qui va provoquer l'effondrement de la culture du cuivre balkanique de Vinča. Donc, certaines franges de la population de ces territoires d'Europe orientale vont se réfugier, vont fuir les Indo-Européens en allant soit vers le sud en Grèce, ou soit vers l'Europe occidentale. Et donc, on va avoir de nouveau un double phénomène, à savoir de migration et d'acculturation. Alors, il se trouve que les populations de la culture de Vinča étaient très proches des populations des cultures cardiales, de la culture rubanée, hein, dont nous avons subi la migration préalablement, donc ce qui n'a pas provoqué de changement, et on n'observe pas encore une vague majeure de migration, si l'on peut dire. En revanche, le phénomène d'acculturation, lui, sera bien établi. Et donc, avec le début de la culture dite campaniforme, ce sera le début de nouveaux styles de céramique, de nouvelles spécificités culturelles qui vont arriver en Europe occidentale, mais également des débuts de la métallurgie du cuivre. Alors, chose très importante, la présence de cuivre en Europe occidentale peut être attestée sensiblement à partir de 3300-3400 avant Jésus-Christ, mais pas de travail de la métallurgie. Donc, nous savons que le cuivre, en faible quantité, sur des objets que l'on retrouve en Europe occidentale, entre 3003 et 3000 avant Jésus-Christ, est un cuivre d'importation, donc qui vient des circuits commerciaux de l'Europe de l'Est ou éventuellement via le bassin méditerranéen. Mais la métallurgie, donc la maîtrise de la métallurgie du cuivre, ne sera acquise en Europe occidentale qu'à partir de 3000-2900 avant Jésus-Christ. Au niveau des rites funéraires, on ne constate pas de différence majeure depuis les premiers temps de la sédentarisation avec le début de l'âge du cuivre. Quand nous étions dans le Dardano-Sinois, Eh bien, préalablement, les gens étaient enterrés dans des sortes de tumulus, des petites grottes creusées dans la terre, ou éventuellement des hypogées sous une forme d'inhumation. Quand nous allons passer avec la sédentarisation, la différence va être progressivement la construction des monuments dits mégalithiques et donc de l'établissement des nécropoles funéraires, ce qui n'empêche pas que les hypogées seront encore utilisées, d'où nous allons reparler tout à l'heure dans le mode de vie et les utilisations des différents sites par la suite. L'inhumation peut être individuelle ou collective. Alors, la chose intéressante, c'est qu'on aperçoit que dans la première période du Chacéen, c'est-à-dire entre sensiblement 5000 et 4500 avant Jésus-Christ, les inhumations sont plutôt individuelles et le tombeau est souvent refermé à l'issue de l'inhumation. Alors que quand nous allons passer au néolithique moyen, c'est-à-dire entre 4500 et 3500 avant Jésus-Christ, les tombes deviennent plutôt collectives. On enfouit, en général, tous les membres d'une même famille, d'un clan, les personnages importants et autres, dans des sépultures collectives. Donc on va se retrouver, encore une fois, avec des nécropoles comprenant 20, 30, 50 et même 300 corps au cours d'une utilisation relativement longue de ces monuments. Chose intéressante, quand on arrive à cette phase donc du campaniforme et donc de l'âge du cuivre jusqu'à 2500, les tombes nécropoles, donc dolmens, sont toujours utilisées sensiblement de la même façon. Mais le changement va intervenir juste après et je passe à la carte suivante. Donc nous sommes dans la deuxième phase du campaniforme qui est maintenant totalement bien implantée sur tous les territoires donc de l'Europe occidentale, mais c'est également l'arrivée progressive des Indo-Européens qui continuaient leur périple, donc de l'Europe orientale ils sont passés en Europe centrale, et maintenant ils arrivent aux frontières de l'Europe occidentale, donc de la culture mégalithique. À ce moment-là, donc, il va y avoir des frictions. Et ces frictions vont engendrer plusieurs phénomènes. Enfin, frictions, comprenez, c'est totalement hypothétique, on n'a pas de récit de bataille, mais néanmoins on peut constater des changements culturels. Tout d'abord, c'est l'apparition de la métallurgie du bronze, qui est assez proche de l'apparition du cuivre pour le territoire d'Europe occidentale, et c'est également le retour de l'inhumation individuelle. Étrangement, il semble qu'il y ait une sacralisation de l'individu, et donc on peut supputer, dans un schéma d'organisation sociale, qu'il y ait une valorisation du guerrier, de l'individu, du chef, ce qui traduit une société plus guerrière ou plus hiérarchisée. Donc ensuite on voit que c'est à cette période qu'il y a eu de nombreux vidages de caveaux, donc de nombreuses évacuations de corps, remplacées par de nouvelles générations, principalement donc cette période entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ. Notons que c'est également la fin du style mégalithique sur certains territoires. Donc on voit que les pays scandinaves et d'Allemagne vont cesser la pratique du mégalithisme dans cette fourchette entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ. Notons également ce cas dans la France, à l'est de la France, mais également c'est également le cas de l'île de Malte pour l'anecdote. On aperçoit en fait que la rupture du style de construction mégalithique s'arrête au moment de l'arrivée ou de la friction avec les Indo-Européens. Donc le style mégalithique se poursuit tout à fait naturellement en Corse, en Sardaigne, en Andalousie, dans le reste de l'Espagne, Portugal, France du Sud et France de l'Ouest, ainsi que l'Angleterre et l'Irlande, qui poursuivent tout à fait naturellement ce style entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ. Autre chose, on observe un large développement des ustensiles de guerre. Il y a une sorte de militarisation de la société, ce qui pourrait se traduire par un double phénomène. Tout d'abord, le constat d'un ennemi extérieur duquel il faut se défendre par une société militarisée, mais également par le phénomène d'acculturation, ce qui fait que ce nouveau mode de culturel des Indo-Européens a pu, dans une certaine mesure, influencer les populations d'Europe occidentale qui ont pu copier certains des aspects culturels. Ensuite, au niveau des rites funéraires, donc comme on l'a dit, c'est l'inhumation, mais également la crémation dans les tumulus, les dolmens et les hypogées, mais on aperçoit sur les territoires où il y a un arrêt du style mégalithique, l'apparition des champs d'urnes funéraires, qui est donc typique, cette fois-ci, de la culture indo-européenne. Alors, poursuivons notre chronologie avec la dernière partie donc, de l'âge des mégalithes, c'est-à-dire entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ. Alors, cette fois-ci, la vague de migration indo-urbaine a totalement recouvert l'Europe et on s'aperçoit que aussi bien l'Espagne que la France, que l'Italie, que l'Angleterre et l'Irlande ont totalement été brassés par l'arrivée, la migration indo-européenne. Donc, notons que c'est l'arrêt définitif de toute la construction mégalithique sur l'ancien territoire d'édification de ces sites. Alors, pour l'anecdote, il existe quelques sites qui vont poursuivre l'édification de ces mégalithes, qui sont donc très spécifiques, qui sont en l'occurrence la Sardaigne, la Corse, une partie, l'Andalousie, et une très légère partie du Languedoc. Mais c'est des cas très particuliers qui seront analysés dans un autre épisode de ce cycle des civilisations oubliées. Donc je ne vais pas m'attarder sur les spécificités sardes, corse et d'Andalousie dans cette présente vidéo. Alors on observe, chose très intéressante, un brusque changement de population. Donc sensiblement entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire préalablement à la partie étudiée actuellement, on voit que près de 40% à 80% de la population a été remplacée sur un point de vue génétique. Alors pour être exact, on parle de 40% en Espagne et de 80% en France, donc où la population a changé, si l'on peut dire. Alors changé, on peut hypothétiser plusieurs raisons. La première raison est une fuite, la deuxième raison est la guerre, évidemment, donc la mort de certaines personnes, donc qui se sont fait tuer par les arrivants de l'extérieur, à savoir les Indo-Européens, donc d'haplogroupe R1B, haplogroupe qui devient donc majoritaire en Europe occidentale, et ce qui est toujours le cas d'ailleurs à l'heure actuelle dans nos sociétés modernes. Alors, une autre chose doit être spécifiée, ce brassage génétique ne comprend en réalité que les lignées dites masculines. Donc l'haplogroupe Y, alors qu'en fait les lignées féminines n'ont pas subi de changement. On peut supputer, encore une fois, que les Indo-Européens sont arrivés, ont pu tuer les hommes éventuellement, et ont pu garder les femmes, évidemment, ce qui a engendré de nouvelles générations de mixage culturel entre les locaux et anciens constructeurs de mégalithes et les nouveaux arrivants indo-européens. Cependant, on s'aperçoit quand même que le phénomène d'acculturation entre les deux cultures avait commencé préalablement au moins 500 ans avant ce remplacement assez brusque de population qui a lieu donc sensiblement vers 2000, enfin entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ. Donc 1500 marque sensiblement la fin définitive du style mégalithique et donc la généralisation du changement de rite funéraire. Les anciens dolmens, cairns et allées couvertes sont abandonnés au profit des champs d'urnes funéraires. Notons cependant que certains sites mégalithiques seront réemployés, mais dans le but d'y entreposer ces urnes funéraires et ne seront pas utilisés dans leur mode d'expression classique, qui était donc l'enfouissement des corps ou la crémation directement dans le tumulus, comme ça se faisait par le passé. Voici grossièrement la chronologie des événements. Donc le passage progressif au néolithique, qui intervient sensiblement entre 5500 et 5000 avant Jésus-Christ, la sédentarisation, la maîtrise de l'agriculture et le début progressif de la fondation, de l'édification des mégalithes, qui va se poursuivre sans interruption jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ pour certains secteurs et qui va se poursuivre jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ pour certaines régions épargnées par la migration indo-européenne dans un premier temps. Donc vous voyez que c'est pendant à peu près 3000 ans que va se développer ce style de construction, cette art mégalithique, donc sur une période extrêmement longue. Il faut bien comprendre également que sur cette période temporelle très longue, il y a des variations, des changements de style, des styles de construction, mais également le mode de vie va particulièrement évoluer, puisqu'on va voir au cours de cette culture, au cours de cette chronologie mégalithique, donc 5000 à 2000 avant Jésus-Christ, on va voir progressivement l'apparition de la métallurgie du cuivre et plus tard du bronze, sur la dernière phase en l'occurrence. Alors évidemment, même si on parle de l'âge du cuivre à partir de 3000 à peu près avant Jésus-Christ, il faut bien comprendre que le cuivre n'est pas pour autant généralisé. Tout le monde ne possède pas d'objets en cuivre et ce n'est pas encore une technologie totalement maîtrisée sur tous les secteurs. Il faut du temps pour que, par acculturation, encore une fois, la métallurgie du cuivre se répande sur toute l'Europe occidentale. Mais voilà, c'était vraiment pour vous donner la zone cible de la période de l'âge des mégalithes. Alors, il existe de nombreuses hypothèses actuelles qui consistent à dire que l'on ne peut pas dater les mégalithes, ce qui est absolument faux, comme je vous l'ai montré dans la partie précédente, mais certaines de ces hypothèses nous disent que les mégalithes sont en réalité bien plus anciens. Et ceci n'est pas cohérent, sur plusieurs points. La première chose, c'est que, comme on l'a dit, pour pouvoir construire un monument de cette ampleur, il faut des populations. Donc s'il n'y a pas de population sédentaire sur un certain site, il est de ce fait impossible qu'il y ait l'édification d'un monument. Donc ça, c'est le premier point. Il est nécessaire pour un site d'avoir une population donnée, et donc un habitat durable, sédentaire. Le deuxième point est la cohérence des dates. Encore une fois, les vestiges trouvés dans les monuments sont conformes aux autres éléments de datation que l'on va retrouver sur le site, comme les pollens et les charbons, qui sont inclus dans la structure même du monument et qui permettent de le dater. Le fait qu'il y ait une corrélation entre ces deux éléments permet d'établir une datation. L'autre élément Et tant qu'on nous dit souvent que les peuples n'avaient pas les technologies suffisantes pour bâtir ces monuments. Alors on reviendra quelques instants sur les méthodes les méthodes de construction de ces monuments dans la troisième partie, mais juste pour établir un point, si l'on accepte cet argument qui consiste à dire que les populations du néolithique, donc culture chasséenne, n'avaient pas la technologie suffisante pour construire ces monuments, il est totalement incohérent de dire qu'une population plus ancienne aurait eu la technologie. Puisque nous trouvons les éléments de vie courante des populations précédentes, que ce soit le tout début du néolithique, que ce soit la période du mésolithique ou même encore de la préhistoire préalablement, nous connaissons les outils. Ce sont des silex bifaces, ce sont des javelots à propulseurs, ce sont tout un tas d'éléments qui ne sont absolument pas des méthodes d'outillage équivalentes au néolithique et absolument pas en capacité, pour le coup, d'établir ces sites mégalithiques. Alors, on va me dire, oui, mais peut-être que ces gens avaient une technologie qui nous est inconnue. Oui, mais le problème, c'est que nous trouvons les javelots à propulseurs, nous trouvons les silex bifaces, nous trouvons les pointes de flèches, mais nous ne trouvons pas de technologie autre. Donc, il est incohérent de dire que certaines parties de la technologie seraient auraient comme par miracle subsisté, et une autre partie, soi-disant merveilleuse, n'aurait pas pu subsister. Donc, il est un état de fait de considérer tout simplement que les hommes de la protéhistoire ont une technologie, un outillage qui nous est connu et qu'il est moins performant que celui du néolithique et que les datations des mégalithes est en corrélation avec la période du néolithique chasséen. Ce qui permet, encore une fois, d'écarter définitivement l'hypothèse d'une antériorité des mégalithes. Cependant, ne soyons pas obtus néanmoins. Il existe certains cas de mégalithes qui peuvent traduire une antériorité, mais cela reste des cas clairsemés et individuels. Encore une fois, si on fait commencer le mégalithisme environ 5000 ans avant Jésus-Christ, il est tout à fait envisageable que certains mégalithes, isolés encore une fois, puissent être plus anciens, peut-être 5500, et soyons fous, pourquoi pas 6000 avant Jésus-Christ. C'est de ce fait tout à fait envisageable. Mais on ne peut pas parler d'éléments de construction génériques et homogènes, encore une fois, sur l'Europe occidentale. Autre point, on me citera par exemple les mégalithes sous-marins qui se trouvent sous l'eau. Alors il faut quand même pousser un petit peu plus loin l'investigation que simplement de dire ils sont sous l'eau, donc ils ont été construits à une époque où l'eau était plus basse, à savoir avant la montée des eaux de Dryas récent. Cela n'est pas si simple en réalité, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que ces mégalithes dits sous-marins se trouvent en général au bord des côtes, à une époque où ils ont pu être victimes éventuellement de l'affaissement des sols ou de phénomènes de montée des eaux plus récentes. Je vais prendre un exemple, celui de Gavrinis. Le cairn de Gavrinis se trouve sur une petite île qui est à proximité des côtes. Mais en réalité, en 3500 avant Jésus-Christ, Gavrinis était relié par la mer, puisque l'eau était un tout petit peu plus basse, en fait, tout simplement. Ce qui fait que s'il y a des mégalithes sous-marins qui se trouvent entre Gavrinis et les côtes, ces derniers ont tout à fait pu être construits à la même époque que le cairn de Gavrinis, qui était relié au continent à cette époque. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est accepter l'idée tout à fait que nous ne connaissons pas tout sur les constructions mégalithiques, mais un autre point étant d'examiner cas par cas chaque site pour voir les explications et les raisons possibles à sa présence sous-marine en l'occurrence. Donc encore une fois, en acceptant l'idée possible d'antériorité de sites spécifiques, mais en acceptant aussi que certains sites ont été immergés de façon extrêmement plus récente, comme par exemple pour le cas des côtes aux environs de Gavrinis. Concluons avec un dernier point sur l'hypothèse de l'antériorité des sites. Eh bien, elle nécessite obligatoirement une installation sédentaire de sa population. Or, il se trouve que pour pouvoir établir l'antériorité d'un site, même éventuellement sous-marin, il va falloir établir la présence d'un habitat à une époque donnée, ce qui, encore une fois, pourrait hypothétiquement repousser l'antériorité d'un site jusqu'à à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au premier balbutiement de la sédentarisation dans le secteur, mais pas à une époque plus ancienne, malheureusement. Quittons maintenant la chronologie pour la troisième partie de cette émission, à savoir la culture mégalithique elle-même, qui sont et comment vivent les populations. Alors, nous commencerons bien sûr avec le mode de vie du peuple, ensuite nous parlerons de son outillage, de son art, mais également de ses circuits commerciaux, puis nous continuerons avec son organisation sociale, sa démographie et enfin l'édification des monuments, les méthodes de transport, les méthodes pour construire le monument et éventuellement les raisons qui ont pu amener à cela. Alors, commençons tout d'abord avec le mode de vie de ces populations, donc qui, je vous rappelle, commence sensiblement entre 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 2000 avant Jésus-Christ. Comprenez bien sûr qu'il y a des variables au cours du temps et que cela va beaucoup bouger, bien évidemment. Alors, de ce fait, à titre d'exemple, nous nous orienterons vers la période dite chasséenne entre 3500 et 3000 avant Jésus-Christ, soit avant la période de l'apparition de la métallurgie du cuivre dans le secteur. Alors, ce qu'on constate, tout d'abord, c'est qu'il y a des habitations, ce que l'on pourrait appeler vulgairement des petits villages ou des petits hameaux qui comprennent parfois une dizaine ou une vingtaine de maisons. Donc, ce sont de petites populations qui vivent. Alors, il faut considérer que l'habitat concerne plusieurs générations. C'est pas comme aujourd'hui où on vit à deux dans une maison. À cette époque, on vit avec les enfants, les parents et éventuellement les grands-parents. Tout dépend bien sûr de l'espérance de vie des personnes. Donc, les premières structures d'habitation apparaissent sensiblement vers 6000-6005 avant Jésus-Christ, mais on peut déceler certains cas isolés, encore une fois, de pseudo-néolithisme qui ont pu arriver à peu près 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce qui peut, encore une fois, donner matière à l'éventuelle antériorité de certains sites, comprenez-le. Mais il ne s'agit pas du tout d'une généralisation. La sédentarisation au sens générique intervient seulement vers 5000 avant Jésus-Christ en Europe occidentale. Alors, au niveau des habitations, comment cela se passe? On observe déjà une certaine structure, puisque les petits villages sont entourés d'une palissade. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes styles, encore une fois, suivant les régions. On va voir des spécificités régionales, comme pour l'art du bâti des mégalithes. Donc, parfois, les palissades entourent le village d'une façon circulaire et d'autres fois, d'une façon plus carrée ou plus rectangulaire, encore une fois. Ou avec des formes, comprenez, on n'est pas sur une géométrie fixe, bien sûr. Mais on voit une volonté circulaire ou une volonté plutôt où on s'adapte à son environnement. Les villages sont souvent placés à proximité des rivières, des fleuves ou éventuellement sur des sortes d'oppidums. Donc d'oppidums qui permettent d'avoir une vue dégagée sur la plaine, donc de se protéger éventuellement. Donc la palissade a plusieurs vocations. La première étant éventuellement d'empêcher les troupeaux qui sont stockés à l'intérieur dans certaines phases de sortir ou d'entrer dans l'autre cas. C'est également un mécanisme de défense. En cas de bande de pillards ou éventuellement de population hostile, la palissade peut offrir une certaine défense. Ajoutons à cela qu'elle est amplifiée par un fossé qui habituellement, alors suivant les sites encore une fois, peut avoir de 2 à 3 mètres de largeur pour une profondeur qui dépasse rarement 1 mètre, 1 mètre 20. Donc ce n'est pas une défense colossale, bien sûr, mais néanmoins, le fossé plus la palissade oriente déjà l'idée d'un premier mécanisme de structure et donc de défense et de l'organisation du village face aux possibilités extérieures. Donc au niveau du bâti du village, la plupart du temps, il n'est pas en pierre. La plupart du temps, il est en terre et en bois. Donc, en bois, parce que c'est déjà plus facile à la construction. Néanmoins, il y a des cas, comme par exemple à Scarabray, en Écosse, sur les îles Orcades, où on va voir que les villages sont bâtis en pierre. En l'occurrence, en petites pierres agglomérées, sans mortier, qui permettent de construire l'habitat du village. Alors, au niveau des maisons, elles-mêmes sont aussi la plupart du temps en bois, même si on peut observer des cas clairsemés en pierre. Ce sont des chaumières faisant approximativement parfois 8 mètres de longueur, parfois pouvant monter jusqu'à 20, 26 ou 28 pour les plus longues qui nous sont connues. Elles disposent en général de 2 parties. Une partie qui est la salle de vie, où on prépare la cuisine, où on fait les activités du quotidien, si l'on peut dire, et d'un espace habituellement de sommeil, donc un espace de sommeil où l'on dort. Et il n'est pas rare d'ailleurs que les animaux, en période de froid ou d'intempéries, puissent être stockés elles-mêmes dans une maison, enfin dans la maison, si elles sont peu, par exemple des chèvres ou des porcs, ou parfois il y a au sein du village une bergerie commune, bien sûr, qui permet donc de stocker les animaux. Au niveau de l'agriculture, donc la sédentarisation engendre, comme vous l'avez compris, l'agriculture, mais également l'élevage qui est attesté. Donc à partir de 5000 avant Jésus-Christ, on atteste la présence au niveau de l'élevage de porcs, de chèvres, de moutons et également de bœufs, hein, qui forment le bestiaire quotidien de ces personnes. Au niveau de l'agriculture céréalière, cette fois-ci, on voit principalement l'usage du blé et de l'orge, et on va voir que suivant les périodes et suivant les changements climatiques, cela va varier. Il y aura une prédominance du blé à peu près vers 5000-4000 avant Jésus-Christ, et puis environ vers 3500, c'est l'orge qui est prédominante. Puis ensuite, cela redeviendra le blé. Alors, il est possible que ce soit également dû à des notions de goût, donc de goût alimentaire, mais c'est en grande partie dû probablement à une facilité de la culture due aux variations du climat. Au niveau de l'agriculture, donc, l'outillage va se perfectionner en adéquation avec les besoins, donc avec la présence de la houe, donc la houe qui est une sorte de bêche, hein, de bêche qui permet de retourner la terre, et puis avec surtout l'invention de l'arère, donc l'arère qui est l'ancêtre de la charrue, hein, donc qui est un outil fondamental puisqu'il peut être tracté surtout par les bœufs. Donc à cette époque, il y a déjà la notion des bêtes de somme, donc qui tirent cette arère, donc qui est une sorte d'ancêtre de charrue qui retourne le sol et qui permet donc de retourner les mauvaises herbes pour la nouvelle plantation des semences. Donc on voit que la technologie progresse extrêmement vite due à la néolithisation. Au niveau du reste de l'outillage, on voit une démocratisation très large des outils notamment avec les haches, donc les haches polies, donc je vous rappelle, néolithique, c'est l'âge de la pierre polie. Donc les haches étaient incrustées dans un morceau de bois, éventuellement dans une corne de cerf, qui était un des gibiers prédominants, hein, de cette époque, puisque ce n'est pas parce qu'il y a la sédentarisation qu'il y a l'arrêt de la chasse et de la cueillette, ce sont simplement des activités annexes qui s'incluent dans un modèle social global. Donc la présence de haches qui sert aussi bien à couper du bois, à débiter une surface, ou à éventuellement à tuer un animal ou d'autres fonctions encore possible. On voit également l'usage de la faucille, hein, pour les récoltes. Quand on coupe le blé, il y a des faucilles en silex à cette époque. Et on voit notamment tous ces gisements de pierre qui fragmentent le territoire à proximité des habitats. Chose qui est très intéressante, c'est qu'on va observer l'apparition progressive d'ateliers et donc de métiers spécialisés. Puisque la plupart des haches, des poteries, des céramiques sont fabriquées dans la maison, mais on va voir progressivement que certains spécialistes, certains ateliers, encore une fois, vont émerger et vont répandre leurs marchandises dans le village, mais également sur les routes commerciales. D'ailleurs, il est intéressant de noter que l'on peut un petit peu suivre ces circuits commerciaux. Alors, la meilleure méthode pour suivre ces réseaux est par justement les bijoux, les parures et les différentes pierres qui sont utilisées à les fabriquer. On voit que le commerce de l'ambre commence à s'établir déjà avec les pays du Nord, donc les pays scandinaves, puisqu'on va retrouver de nombreux objets utilisant de l'ambre, donc qui attestent encore une fois de relations commerciales. Ou encore une fois, par phénomène de village en village. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que des caravanes marchandes vont de la France historique jusqu'à la Suède ou au Danemark par exemple. Il s'agit plutôt de considérer que le commerce des pierres d'ambre va se faire dans le Danemark et va se répandre dans territoire en territoire suivant les différents circuits. On voit également à partir de 3003-3004 après Jésus-Christ l'apparition donc de premiers objets couteaux typiquement ou de petits bijoux en cuivre, donc qui viennent de l'Europe de l'Est. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que des commerçants vont à pied de l'Europe de l'Est jusqu'à la France, il s'agit simplement de dire que ce sont des réseaux, des circuits de commerce qui arpentent et diffusent les marchandises. Au niveau des céramiques, c'est un petit peu la même chose, même si la production reste particulièrement locale et va évoluer, bien sûr, au cours du temps, on voit progressivement un perfectionnement dans l'art de la céramique. Alors tout d'abord, il y a une sorte de grands pots céramiques qui ont pour but de contenir donc les récoltes, c'est-à-dire le blé, l'orge, etc. Donc ce sont des grands pots qui peuvent contenir près de 50 kg, donc qui sont très conséquents, qui sont stockés dans les maisons ou dans des celliers. Et puis on va voir progressivement aussi l'apparition de poteries beaucoup plus discrètes, donc la poterie courante, c'est-à-dire pour la table, avec des louches, des cuillères, des petits pots en terre cuite pour la cuisson, mais également pour boire, comme des gobelets tout simplement, donc qui se répandent dans les maisons. Donc on voit en fait un mode de vie qui devient de plus en plus raffiné, si l'on peut dire. Au niveau des bijoux d'ailleurs, donc on a parlé un petit peu de ces circuits de pierre qui arpentent toute l'Europe, hein, puisqu'on trouve, donc, je le rappelle, un circuit qui va aussi bien de la Scandinavie que jusqu'à l'Ibérie, en passant par l'Europe de l'Est et l'Italie, jusqu'à la Grande-Bretagne. Donc on voit que ce circuit est bien implanté, encore une fois, mais dans des régions qui ne communiquent pas forcément directement entre elles. Il est important de faire cette petite distinction entre un commerce direct et un commerce par phénomène de circuit, si vous voulez. Alors, au niveau de ces bijoux, on va voir encore une fois qu'ils deviennent très importants. On commence à avoir une. C'est particulièrement dans les tombes, dans les nécropoles, donc dans les dolmens, comprenez, que l'on va retrouver ces bijoux, donc qui sont des offrandes funéraires, et qui permettent aussi d'établir une hiérarchie de la société. On voit que des personnes sont dotées de riches trésors, si l'on peut dire, pour l'époque, et que d'autres sont dépourvues de richesses, ou n'ont quelques gobelets, quelques céramiques seulement avec eux. Donc, on voit encore une fois qu'il y a une certaine hiérarchisation sociale et un désir de la parure. Donc, il peut encore une fois s'inclure dans les jeux de séduction et autres. Petite difficulté avec les vêtements. Il est très difficile de savoir exactement quel était l'habillage de ces populations du néolithique, tout simplement parce que la plupart ont disparu dû aux péripéties du temps et il ne reste que peu d'éléments. On peut supputer évidemment une large présence de cuir et de fourrure par rapport à la faune du secteur, mais on a déjà des premières traces d'outillage pour le tissage du coton qui apparaît à ces époques. Donc on voit que les personnes ont également changé, en plus de leur habitude d'agriculture et également d'outillage, ont évidemment changé également leur mode vestimentaire en adéquation avec leur nouveau mode de vie. Parlons justement un petit peu de la démographie. Alors, c'est assez délicat d'établir avec certitude des chiffres, mais plusieurs éléments nous permettent d'établir grossièrement cette démographie. La première étant bien sûr les vestiges de l'habitat humain et du potentiel de population, qui y résidait. Et la deuxième chose est évidemment de concevoir aussi le travail du secteur que l'on peut attester, donc de cultivation, de culture qui s'est répandue dans ces secteurs. Et évidemment, la présence de mégalithes est également un indicateur de population. Si mégalithes, il y a population. Et puis évidemment, plus les mégalithes sont complexes, plus cela suggère une population importante. Alors, pour parler chiffres, bien que cela reste extrêmement, extrêmement complexe, on estime la population de la France à cette époque à environ entre 300 et 500 000 personnes, ce qui fait à peu près une personne au kilomètre carré, ce qui n'est pas gigantesque, mais qui est déjà une population quand même bien établie pour l'époque. Alors, au niveau de la mortalité de l'âge moyen, ce n'est pas encore très glorieux, si l'on peut dire. L'espérance de vie moyenne, alors comprenez bien, moyenne, ça prend également la mortalité infantile, donc la moyenne de l'espérance de vie est à peu près entre 25 et 28 ans, ce qui n'est pas très élevé. Cependant, on observe quand même que un quart des individus ne dépasse pas l'âge de la puberté. On peut estimer à peu près donc, que 25% des gens ne dépassent pas l'âge de 10 ans, ce qui évidemment fausse les statistiques si l'on peut dire, puisqu'on voit quand même de nombreux corps de personnes quarantenaires, cinquantenaires et même quelques soixantenaires dans les tombes. Au niveau des pathologies, la sédentarisation provoque également d'autres difficultés. Ce n'est plus forcément le risque d'être encorné par un animal qui devient une cause de mortalité directe, mais cette fois-ci, ce sont le port des charges lourdes. On voit énormément de problèmes de dos, des problèmes de dentition qui arrivent face à un changement de l'alimentation sédentaire. Donc on voit des pathologies qui sont typiques de gens qui font un travail d'agriculture, un travail des champs. Notons que ces pathologies étaient encore présentes en France il y a encore une centaine d'années. Hein. Donc on voit typiquement le passage à une société rurale pour ces populations bâtisseuses de mégalithes. Pour ce qui est de la hiérarchisation sociale, c'est évidemment extrêmement difficile à établir. Il est évident que si communauté humaine, il y a forcément eu certaines castes qui se sont agencées progressivement au cours du temps, avec la présence d'un chef, d'un leader, ou éventuellement de postes sacerdotaux, peut-on dire, mais il est très difficile d'avoir une cartographie complète. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est qu'il y a des différences sociales qui existent. Au niveau, par exemple, des rites funéraires, certaines personnes sont enfouies ensemble, sans éléments trésoraires particuliers avec eux, et puis d'autres personnes bénéficient de tombes individuelles, et donc avec de nombreux trésors, des couteaux en cuivre par exemple, de nombreuses haches, des poteries, tous les éléments qui exprimaient sa richesse. Donc ça c'est important, on peut déjà établir qu'il y a un système de hiérarchie sociale, mais on ne peut pas évidemment définir dans quelle mesure. Au niveau des richesses, justement, parlons un petit peu des métaux. Donc, à partir de 3003-3004, apparaissent les premiers objets en cuivre d'importation. Puis, à partir de 3000 avant Jésus-Christ, les mégalithes sont toujours construits, mais on voit l'apparition de la métallurgie du cuivre, mais encore relativement rare. Il est très intéressant de noter qu'un poignard en cuivre est une chose qui a une immense valeur à cette époque et qui est prisée par les personnes qui ont des moyens, donc les personnes qui font partie du haut de la hiérarchie sociale. Or, ces poignards en cuivre étaient automatiquement enterrés avec le défunt, ce qui engendre évidemment le prestige, encore une fois, décuplé de cet objet. Notons que le vidage des corps des temps passés dans les mégalithes que nous avons étudiés tout à l'heure est peut-être dû également à cette volonté de pillage. Quand des peuples différents, qui ne sont pas les héritiers directs des peuples bâtisseurs, arrivent dans un secteur, il est tout à fait possible qu'ils aient pu piller les tombes dans le but de s'octroyer les richesses des défunts. C'est un phénomène qui ne serait absolument pas unique et qui s'est vu dans de nombreux endroits de la planète de façon tout à fait classique, si l'on peut dire. Donc, encore une fois, le vidage des corps d'un tumulus peut être dû éventuellement à une volonté de pillage. D'où ceux qui étaient obstrués par une tombe ont été évidemment mieux préservés. Un autre point que je ne vous ai pas cité, mais qui est intéressant par rapport à la hiérarchisation sociale, c'est notamment la présence des stèles minières qui nous informent sur certains traits de civilisation. La première chose est, encore une fois, le fait que l'on représente aussi bien des hommes et des femmes, ce qui ne suggère pas, du moins, qu'il y ait une égalité totale des sexes entre les hommes et les femmes dans ces sociétés, mais suggère néanmoins qu'il y a moins de différence que ce que l'on pourrait croire. Les femmes étaient elles aussi représentées sur des statues minières et donc pouvaient avoir été elles-mêmes soit statufiées en tant que héroïne, en tant que mère fondatrice ou pourquoi pas en tant que divinité, de la même façon que les hommes, même si on retrouve un petit peu plus de statues minières masculines bien sûr. Alors ces fameuses statues minières justement peuvent représenter les anciens chefs de clan, les anciens leaders, les anciens héros du clan, ce qui peut encore une fois exprimer cette notion de hiérarchie sociale. Et cela va nous conduire justement à la dernière partie du mode de vie de ces populations, qui est justement l'édification de ces mégalithes. Car pour qu'il y ait édification des mégalithes, il faut impérativement plusieurs choses. La première étant évidemment une organisation sociale. On ne s'improvise pas constructeur de mégalithes, il faut évidemment une société organisée avec un projet collectif. Et pour cela, on va définir le projet d'édification de mégalithes en 5 points fondamentaux, avec la réponse que nous donne l'archéologie à l'état actuel, et si elle est satisfaisante ou est encore totalement incomplète. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement sur le processus d'édification des mégalithes, parce que tout à fait, déjà, premier point, ce n'est pas ma spécificité, et puis je vous renverrai, bien sûr, à des sources qui vous permettront d'en savoir plus sur la question. Je vais simplement vous partager mes recherches à l'état et mes observations sur ce que l'on nous dit sur ce sujet. Donc, l'édification d'un monument mégalithique se résume en 5 points. Le premier, c'est le projet initial de la communauté et le choix du site. On choisit un site qui va répondre à nos exigences religieuses et sacrées, éventuellement l'orientation vers un phénomène de solstice et équinoxe. On va le mettre à proximité de notre lieu d'habitation, mais néanmoins, on observe que les mégalithes sont souvent placés hors de l'habitat. Ils ne sont pas construits dans le village, ils sont construits à proximité du village, une proximité somme toute assez immédiate néanmoins, mais à côté. Donc, un site à caractère religieux. C'est un peu comme si vous voulez faire un comparatif, on construisait l'église à environ 500 mètres de la ville. Alors, tout d'abord, donc, le projet initial suggère encore une fois une hiérarchie avec un chef, un corpus de personnes qui décident et qui vont faire le choix du site, du lieu et de quel bâtiment on va construire. Évidemment, ça suggère encore une fois une société organisée. Ce qui n'était pas, revenons-le, ce qui n'était pas à la portée des chasseurs-cueilleurs, qui étaient un clan de 10 à 15 personnes, qui arpentaient les terres en quête de gibier, de cueillettes et autres, et qui n'avaient ni le temps, ni l'organisation suffisante pour pouvoir se lancer dans de tels projets de construction. La deuxième phase du projet, c'est bien sûr l'extraction de la pierre nécessaire à l'édifice. Alors oui, excusez-moi, je reviens au premier point. Au niveau donc de ce projet initial, les hypothèses archéologiques actuelles que l'on propose, donc sites à caractère sacré dans le but de cérémonies religieuses d'enfouissement des morts, ce sont des hypothèses archéologiques dites fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent, elles sont valides, elles sont possibles, mais on ne peut pas affirmer que c'est ça. Ce sont simplement des hypothèses fonctionnelles. Comprenez-le bien. Le deuxième point, donc l'extraction de la pierre ou des pierres nécessaires à l'édifice. Alors, aujourd'hui, la science a des théories archéologiques valides. Valides, ce qui veut dire que cela s'est passé dans un temps révolu, bien sûr. Alors, l'extraction de la pierre s'est faite avec plusieurs méthodes. Des méthodes notamment utilisant le bois, l'eau et le feu. Comment ça se passe? Une fois la carrière identifiée, et il faut savoir que les carrières mégalithiques, nous les connaissons, nous savons dans quelle carrière, dans quel site ont été extraits les pierres mégalithiques, enfin, qui serviront à l'établissement des sites. Alors, comment est extraite la pierre du sol? Eh bien, tout d'abord, il y a un certain sillon qui doit être creusé via les outillages de l'époque, donc avec différentes pierres pour pouvoir faire une petite fracture dans la roche afin de pouvoir y insérer un coin de bois. Ensuite, ce coin de bois était mouillé avec de l'eau afin de grossir et de pouvoir briser, provoquer une fissure dans la pierre. Il est bien sûr tout à fait possible aussi, aux éléments archéologiques que nous disposons, que certaines fissures naturelles aient été utilisées. Donc c'est par une association habile entre l'eau et le bois, mais également avec le feu, qui permet de créer des dépressions de température et de briser la pierre, donc de créer de vastes fissures qui permettent donc d'extraire les pierres du sol. Je vous rappelle encore une fois que les mégalithes ne sont pas faits de grosses pierres cyclopéennes polies, mais de pierres brutes, si l'on peut dire, donc qui sont encore une fois des amas rocheux naturels extraits du sol qui vont être disposés dans un site. Ensuite, dans la construction du monument, on va revenir par la suite, il y a énormément de petites pierres qui permettent de créer des jointures sans mortier et qui permettent de donner une cohérence à l'édifice afin qu'il soit stable et durable, ce qui sera le cas. Donc, l'extraction des roches des carrières, à ce niveau-là, les théories archéologiques sont valides, fonctionnelles et attestées par les éléments que nous possédons. Ensuite vient le troisième point, la question du transport des pierres. Alors, à ce stade, il existe des hypothèses archéologiques dites fonctionnelles. Ça veut dire que les méthodes d'archéologie expérimentale ont permis, en effet, de mettre en évidence des procédés fonctionnels qui permettent de déplacer des masses de plusieurs tonnes sur des distances, et donc qui ont pu être utilisées hypothétiquement par les peuples du Néolithique. Comprenez bien que nous ne disposons pas de textes écrits, donc nous ne savons pas avec exactitude quelle est la méthode employée par les peuples du Néolithique. Le but de l'archéologie expérimentale est d'émettre des hypothèses fonctionnelles qui ont potentiellement pu être utilisées par ces peuples. Alors, les techniques que l'on suppose être les bonnes sont donc des méthodes avec des rondins de bois, avec chariots de bois qui permettent donc de tracter une pierre, des systèmes de leviers, des systèmes par tractage également par des bêtes de somme, comme des bœufs, des méthodes qui sont encore une fois tout à fait fonctionnelles. Cela ne veut pas dire qu'elles sont simples, cela ne veut pas dire qu'elles sont faciles à mettre en place, cela veut dire simplement qu'elles fonctionnent par rapport aux technologies et aux connaissances et aux outillages de l'époque. Le quatrième point, la construction elle-même du monument. Encore une fois, de la même façon, nous disposons d'hypothèses archéologiques dites fonctionnelles dans la même mesure que pour le transport. Donc les sites sont construits sans mortier, par des systèmes encore une fois de glissement de la pierre avec une main-d'œuvre suffisante. Aujourd'hui, l'archéologie expérimentale a mis en évidence que des masses colossales mégalithiques pouvaient être tirées avec un nombre relativement réduit de personnes. Les anciennes hypothèses qui nous disaient qu'il fallait être 2000 pour tirer un gros caillou ne sont plus du tout acceptées aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe encore une fois des expérimentations qui permettent de montrer qu'avec 10 à 100 personnes suivant les sites et suivant les masses, il est tout à fait possible d'ériger ce type de monument. Contrairement à il y a 30 ans, aujourd'hui, il est hautement probable que les mégalithes furent construits par des cercles de personnes relativement réduits, contrairement, encore une fois, à ce qui était cru il y a certaines années. Alors, il ne s'agit pas de vous dire que le site a été construit par 10 personnes, mais l'idée que 30 à 50 personnes aient pu construire un mégalithe est tout à fait acceptable au vu de ce que l'archéologie expérimentale exprime de nos jours. Alors, encore une fois, avec le petit bémol, cela dépend des sites. Alors, pour la cinquième partie, donc finalisation du monument, encore une fois, comme on l'a vu, c'est un tumulus. Une fois que les grosses pierres cyclopéennes sont mises en place, donc pour prendre l'archétype du dolmen, les deux pierres verticales et la pierre horizontale, eh bien, il s'agit de solidifier la structure avec un amas de pierres moins conséquentes, moins importantes, plus petites, qui vont servir en fait de remblais pour l'extérieur du monument et éventuellement des zones de jointure. Et puis le tout, après, étant recouvert d'un tertre, d'un tumulus, encore une fois, afin de recouvrir l'intégralité de la structure, faisant d'elle une sorte de petite colline naturelle. Alors, encore une fois, l'édification des monuments est tout à fait possible pour ces peuples du Néolithique, elle est tout à fait acceptable, elle est tout à fait fonctionnelle. Néanmoins, avec toujours ce petit bémol, qui est que l'archéologie expérimentale, aujourd'hui, propose des hypothèses fonctionnelles, ce qui ne veut pas dire que c'est exactement cette méthode qui fut utilisée par le peuple du Néolithique. Comprenez encore une fois cette petite sauvegarde. Et puis nous allons passer maintenant à la quatrième partie, à savoir les hypothèses et les théories. Cette partie sera relativement rapide, nous allons faire un petit peu le bilan des hypothèses et des théories en vogue sur la question du mystère énigmatique des mégalithes. Alors, nous allons commencer avec une petite introduction sur le gigantisme face à la raison, tenter de remettre un petit peu de cohérence sur ce sujet, puis ensuite nous pourrons aborder correctement, de ce fait, l'hypothèse de l'Atlantide des mégalithes, l'hypothèse hyperboréenne, l'hypothèse néo-évémériste, ou si vous préférez, les extraterrestres, et puis ensuite la théorie, cette fois-ci, de l'empire mégalithique, et puis nous finirons avec un petit peu de fiction face à la réalité. Il peut sembler difficile parfois de concevoir que des peuples du néolithique, c'est-à-dire développant simplement l'agriculture, des outils de pierre, des cordes et seulement les premiers balbutiements de l'élevage et de la société, peut-on dire, aient pu édifier ces temples de pierre éternels qui sont toujours présents aujourd'hui. Cela peut sembler étrange. Et pourtant, aller à sens inverse, c'est déjà nier un certain aspect du génie de nos ancêtres. Le problème étant de vouloir remplacer quelque chose de difficile à concevoir par quelque chose de complètement fantasmagorique. Et c'est ça le piège de cette fiction face à la réalité un petit peu. Les peuples du néolithique avaient des outils à leur disposition relativement simples. Néanmoins, ils ont consacré du temps, de l'ingénierie et des efforts pour leurs bâtiments. Vouloir attribuer les mégalithes à un autre peuple, c'est déjà nier leur capacité personnelle en disant simplement qu'ils n'étaient pas capables de le faire. L'archéologie expérimentale démontre que si, ils étaient capables de le faire. Difficilement, mais ils étaient capables de le faire. Et ils l'ont fait. Vouloir l'attribuer à un autre peuple mystique, dans les différentes théories que nous allons explorer, ne repose pas sur des éléments archéologiques, dispose sur des conjectures d'absence de preuves. On nous dit qu'il existait une civilisation antédiluvienne très développée, mais nous n'avons pas de preuves de cette civilisation. Et on va répondre, c'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'elle n'a pas existé. Bah oui, mais l'absence de preuves n'est pas une preuve. Et là est tout le problème. Donc, vouloir faire remonter l'antériorité des mégalithes et les prêter à une civilisation inconnue pose la question également à sens inverse. Les mégalithes sont des monuments faits de pierres brutes. Et on peut comprendre pourquoi. N'ayant pas d'objet de taille perfectionné, on extrait une roche brute, on l'achemine et on la met dans le monument, en créant un remblai, un tumulus, etc. Tout un tas d'autres choses. N'oubliez pas que les mégalithes que vous voyez aujourd'hui n'étaient pas visibles à une époque. Stonehenge est visible. Les monuments sont visibles de l'extérieur, comme tout Cromlech. Mais c'est une autre époque, c'est beaucoup plus récent Stonehenge. On dispose d'outils de taille beaucoup plus perfectionnés lors de Stonehenge que lors de Barnenez, par exemple, qui date, lui, de 5000 avant Jésus-Christ. Donc il faut bien penser à mettre en contexte de date un site mégalithique face à un autre. Stonehenge a une apparence beaucoup plus agréable et beaucoup plus jolie, mais il est beaucoup plus récent, tout simplement, avec des outils de ce fait plus perfectionnés. Si l'on veut, encore une fois, prêter ces constructions à un autre peuple, antédiluvien ou autre, l'on pourrait se poser la question que si ce peuple est si avancé avec une technologie si perfectionnée, trois questions. Pourquoi on ne trouve pas de traces de cette technologie perfectionnée? Pourquoi on ne trouve que des objets du quotidien de chasseurs-cueilleurs? Parce que les chasseurs-cueilleurs, eux, on les trouve. Mais la technologie développée, elle, on ne la trouve pas. Ce qui pose une dichotomie. Pourquoi trouver certains éléments archéologiques et pourquoi on n'en trouverait pas d'autres? De là est la question. Le deuxième élément, c'est qu'on voit que si un peuple a une technologie plus perfectionnée que celle du néolithique, comme par exemple Sumer, ou par exemple l'Égypte antique, ou même par exemple la Grèce mycénienne, on va voir une architecture totalement différente pour des peuples qui ne se côtoient pas spécifiquement beaucoup entre eux non plus. On va voir par exemple que chez les Mayas et les Aztèques, on va voir une architecture perfectionnée se développer, évidemment, mais avec un outillage plus perfectionné également. Donc de ce fait, six populations ayant une technologie mystique, complexe, inconnu de nous, il est quand même assez peu probable qu'il se soit contenté d'une pierre brute. Il se serait probablement agencé vers des modes de construction typiques de la période antique, et non pas du style néolithique. Puisque ce style néolithique de pierre brute va se retrouver sur d'autres sites de la planète, hors de cette culture mégalithique, dans d'autres éléments de bâti, avec des populations dont on ne met pas en cause le fait qu'ils aient édifié ces monuments. Donc, encore une fois, l'énigme des mégalithiques, ce mystère autour de leur construction, vient du fait que habituellement, on ne prend pas suffisamment le temps de lire les relevés archéologiques de ces différents sites, les fouilles, les études et les analyses des spécialistes de la question. De ce fait, encore une fois, pour sortir du mythe des mégalithes, il faut prendre le temps d'étudier correctement les mégalithes. Voyons justement quelques-unes de ces hypothèses assez hasardeuses. Tout d'abord, l'une des plus répandues, l'hypothèse de l'Atlantide. l'Atlantide aurait été une grande civilisation antédiluvienne, etc., etc. Et certaines théories certaines hypothèses à trait à l'Atlantide feraient de la civilisation des mégalithes l'Atlantide. Cela n'est pas cohérent pour plusieurs points. Voici les principaux contre-arguments. Le premier, les descriptions de Platon ne correspondent pas aux éléments factuels de la culture des mégalithes, habitat, outillage, coutume. Deuxième point, c'est l'absence de villes d'importance. Au mieux, les sociétés du néolithique avaient des petits villages, des petits hameaux, de quelques maisons entourées de palissades et de fossés. Absolument pas de villes ayant un port cyclopéen avec des temples partout et des statues de Poséidon. Troisième point, non maîtrise des métaux avant 3000 avant Jésus-Christ. La société mégalithique s'étale sur une période globale de 5000 à 2000 avant Jésus-Christ et il n'y a pas de maîtrise métallurgique avant 3000 avant Jésus-Christ, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus maîtrise d'or et d'argent et de ce fait pas non plus de l'hypothétique oricale que des Atlantes. Autre chose, pas d'invasion de la Méditerranée par la mer. Les peuples mégalithiques n'ont pas fait de vastes migrations vers la Méditerranée orientale, notamment vers la Grèce, l'Égypte et le Proche-Orient comme décrit dans les textes de Platon. Donc l'idée étant que l'Atlantide de Platon n'a aucun rapport de près ou de loin avec les mégalithes de la culture ouest-occidentale, même si l'idée est séduisante, encore une fois, il n'y a pas de rapport direct, il n'y a que des rapports indirects via des recherches plus récentes et des interprétations récentes du mythe platonicien. Mais néanmoins, il n'y a pas, encore une fois, de lien direct. Pour faire le correctif de cette théorie, je vous ai déjà proposé une vidéo qui s'appelle « Tarte et sauce, l'Atlantide retrouvée » que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Donc je ne vais pas m'étendre longuement sur la théorie de l'hypothèse Atlante. Autre chose, vous trouverez plus d'informations dans mon livre qui sera disponible en octobre prochain aux éditions de L'Opportun qui s'appellera « Les civilisations oubliées » où nous aborderons justement cette question de l'Atlantide mais également des mégalithes et des autres hypothèses vues juste après. Autre chose, l'hypothèse hyperboréenne. Alors, les contre-arguments principaux sont les mêmes, hein, sensiblement. Les descriptions des auteurs antiques ne correspondent pas au mode de vie des populations mégalithiques. Aucune mention des mégalithes dans la culture grecque antique. Les civilisations proto-grecques, comprenez mycéniennes, minoennes, ne côtoient pas directement la culture mégalithique, ce qui, de ce fait, engendre une impossibilité des rapports et des mémoires. Et évidemment, pas de commerce avec l'île de Délos, qui est au cœur de l'énigme hyperboréenne dans la culture grecque. De la même façon, je vous ai proposé une vidéo de vulgarisation « La légende d'Hyperborée » que vous trouverez gratuitement sur la chaîne pour avoir plus d'informations. Et de la même façon, l'énigme hyperboréenne sera également un des chapitres importants de mon livre à sortir, toujours en octobre, bien évidemment. Je vous rappelle que mon livre a été repoussé suite à l'épidémie de coronavirus. Il était censé sortir au mois de mai, c'est-à-dire en même temps que cette vidéo. Malheureusement, il est un petit peu retardé. L'autre hypothèse en vogue aujourd'hui est moderne, puisqu'elle appartient au XXe siècle, c'est l'hypothèse néo-éphémériste ou extraterrestre, bien entendu. Alors, je n'ai certes pas fait de vidéo corrective, pour la simple et bonne raison que je ne traite pas du sujet du néo-éphémérisme sur ma chaîne. Les contre-arguments principaux sont qu'il n'existe aucune donnée archéologique pour l'étayer, bien entendu. Je vous rappelle, absence de preuve n'est pas une preuve. Ensuite, la dissonance entre technologie et les sites mégalithiques. Si on possède une technologie antigravité qui permet de traverser le système solaire, il est quand même assez peu probable de construire des sites mégalithiques en pierre brute et de façon aussi simpliste. Et ensuite, bien évidemment, c'est la réutilisation des méthodes dans l'époque récente, c'est-à-dire que l'art mégalithique et les méthodes de construction ne se sont pas limités bien évidemment qu'à l'Europe et on a encore aujourd'hui dans le XXIe siècle, des peuples qui pratiquent encore l'art du mégalithisme dans d'autres formes bien sûr, notamment en Afrique ou même en Asie. Donc de ce fait, c'est une technologie qui est encore vivante sur Terre et donc qui n'a pas besoin, qui n'a pas la nécessité de voyageurs venus de l'autre confin de la galaxie. Vous trouverez également plus d'informations en sous-chapitre dans mon livre où je traiterai rapidement la question du néo-évémérisme. Donc, pour parler de la dernière hypothèse, qui en réalité est une théorie, c'est l'idée que la culture mégalithique ouest-occidentale ne serait pas simplement une culture ou des cultures, mais serait un empire, c'est-à-dire serait une société organisée et cohérente sur tout cet espace ouest-européen. Eh bien, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Alors, les arguments pour sont tout d'abord qu'il y a un mode d'expression artistique, comprenez l'art mégalithique, qui est commun. La deuxième chose est qu'il y a des rites funéraires communs. Le troisième point est qu'il y a une structure sociale qui semble commune, au vu des données qu'on a, hein, bien sûr. Et la dernière chose est qu'il y a un large circuit commercial où on voit que les bijoux, les pierres, etc. se diffusent largement dans ce secteur géographique. Néanmoins, il y a des contre-arguments d'importance. Le premier est tout d'abord qu'il y a une différence de style suivant les régions et les époques. Les mégalithes languedociens ne sont pas les mêmes mégalithes que les mégalithes angevins. Et c'est encore plus vrai pour les mégalithes andalous. Deuxième point, la difficulté de communication. Si société organisée commune, il faudrait des circuits de diffusion et des circuits rapides pour pouvoir communiquer entre les différents secteurs avec des structures sociales établies. Or, ce n'est absolument pas le cas à cette époque. Je vous rappelle qu'on est au balbutiement de l'invention de la roue. La roue, les plus anciennes peuvent être hypothétisées dans les Alpes environ vers 4500-5000 avant Jésus-Christ, et la roue ne sera diffusée réellement qu'à partir d'à peu près 3000 avant Jésus-Christ. Donc de ce fait, on est très loin de méthodes de communication rapides et pratiques. Autre chose, organisation sociale rudimentaire. On voit que les villes, ou plus précisément les villages, sont des petites structures de communautés humaines qui ont pu compter peut-être 50, peut-être 100, à imaginons 300 personnes possiblement, ce qui est relativement réduit, beaucoup, bien trop peu, pour pouvoir envisager une société lointaine avec des communautés liées avec des systèmes de vassalité, de servitude ou autre. Donc structure sociale insuffisante. Et ensuite, pas d'uniformisation de l'outillage et de l'habitat. On observe que, que les céramiques et l'outillage du Languedoc n'est pas identique à l'outillage de Bretagne, que l'outillage de Bretagne n'est pas identique à l'outillage andalou. Pareil pour les céramiques, etc. Donc on peut véritablement, à mon sens, parler de culture sœur, donc d'un ensemble culturel commun, mais on ne peut à aucun moment parler d'un empire des mégalithes, puisqu'il n'y a pas de cohésion dans ce même empire, dû à des différences trop marquées et trop notables et l'impossibilité d'un système social organisé sans, vu qu'il n'y a pas encore notamment les fondamentaux d'une civilisation, c'est-à-dire la création du principe d'une ville en forme de cité-état. Il n'y a pas non plus l'usage de l'écriture, c'est-à-dire d'une méthode de communication facile, pratique et facilement diffusable. Et il n'y a pas également d'uniformisation de commerce. Tout fonctionne encore au système de troc. Il n'y a pas encore d'une sorte d'échelle de valeur qui est établie. Donc il me semble un petit peu péremptoire à ce stade de pouvoir parler d'empire mégalithique. Nous restons, je pense, sur le système de culture mégalithique, mais non pas d'empire. À ce stade de l'émission, vous pourriez vous dire, il ne reste plus de mystère sur les mégalithes. C'est une culture avec des différences régionales, des différences dans le style de construction, dans l'outillage, dans la céramique, dans les us et coutumes et également dans les structures de l'habitat qui ont des variables. Néanmoins, on observe un secteur géographique commun qui permet donc d'établir généralité qu'on appelle globalement le mégalithisme. Voilà, tout simplement. Et vous pourriez être déçu en me disant « il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de fantasme, il n'y a plus de choses à trouver ». Eh bien déjà, arrêtez tout de suite. En réalité, nous ne connaissons absolument pas tout sur la culture mégalithique. Bien au contraire, les découvertes sont encore à faire. Il reste à peaufiner la compréhension que nous avons de ces peuples, de cette culture, etc. Il reste de nombreux mystères qui entourent les mégalithes. Et certains n'auront probablement jamais de réponse empirique. Les méthodes de déplacement, d'édification et de construction des sites sont fonctionnelles par l'archéologie expérimentale, mais nous ne disposons pas d'éléments qui permettent d'attester que les méthodes sont parfaitement celles-ci. Elles sont proches, sans aucun doute, mais avoir une preuve empirique de cela est quand même relativement délicat. Donc, vous allez me dire, encore une fois, plus de fantasmes, si ce n'est le peaufinage de l'archéologie, pas de fantasmes, pas d'Atlantes, pas d'hyperboréens, pas d'extraterrestres, mais que nous reste-t-il ? En réalité, les mégalithes, c'est pas très intéressant. Eh bien, détrompez-vous. Parce que quand on fait ce travail, moi-même j'ai cru à certaines théories alternatives sur les mégalithes il y a quelques temps, j'ai pu croire à l'Atlantide des mégalithes, j'ai pu croire aux hyperboréens, j'ai pu croire à tout un tas de choses. Mais en recherchant assidûment, je me suis aperçu qu'il existait beaucoup d'informations sur les mégalithes. Et donc j'ai accepté de vous les livrer dans leur état, au risque de ne pas vous faire plaisir. C'est possible, je m'en excuse si c'est le cas. Mon but n'est pas de vous plaire ou de vous déplaire, mon but est simplement de vous partager mes réflexions sur un sujet et mes connaissances à un état donné. Donc, l'idée, c'est de déconstruire un petit peu les fantasmes qui ont trait à la culture mégalithique. Mais tout ceci, c'est à un but. Et le but est très simple. Une fois qu'on a mis un peu de cohérence, qu'on est sorti de la fiction, on peut se concentrer sur la réalité et sur les véritables questions est le véritable mystère des mégalithes. Et ce véritable mystère, c'est ce qu'on va ouvrir maintenant. Alors maintenant, dans cette cinquième partie, nous allons tout d'abord établir un bilan avec quelques questions. Qui, quand, comment et pourquoi, afin de bien cibler la zone de recherche chronologique, civilisationnelle, avec tous les éléments qui sont à notre disposition pour l'étude de la culture des mégalithes. Puis ensuite, nous ferons l'analyse théologique, symbolique, mais éventuellement ésotérique, de ce que l'on peut dire des mégalithes, tenter de percer leur mystère par rapport aux croyances, à la religion et aux concepts cosmogoniques qu'avaient potentiellement les peuples qui ont édifié ces monuments. Commençons notre bilan avec la première question : qui sont les bâtisseurs de mégalithes ? Eh bien, ce sont les peuples du néolithique, éventuellement répertoriés sous le nom de culture chasséenne ou encore d'autres vocables régionaux, car comme nous l'avons vu, l'art mégalithique possède des variables de style suivant les différentes régions de son implantation. Donc, qui sont ces peuples du néolithique ? Eh bien, ce sont des habitants sédentaires qui sont nés de la fusion, pourrait-on dire, de deux entités. La première autochtone, locale, qu'on appelle la culture tardénoisienne, et une autre alloctone, c'est-à-dire extérieure, via le phénomène de migration mais également d'acculturation des cultures cardiales et rubanées. Donc, ce sont ces deux entités fusionnées qui vont donner naissance à la sédentarisation ouest-occidentale, et ces peuples vont établir donc ce style mégalithique sur leur espace géographique. Alors, la deuxième question, c'est quand ? Eh bien, la fourchette de date peut grossièrement se placer entre 5000, 5500 avant Jésus-Christ et 1500 avant Jésus-Christ, avec un âge d'or du mégalithisme compris entre 3500 et 2500 avant Jésus-Christ, sachant que c'est une fourchette de date. Bien sûr, c'est une temporalité qui peut être élargie avec quelques phénomènes éventuellement d'antériorité, pouvant pousser le mégalithisme peut-être à 6000 avant Jésus-Christ et imaginons peut-être même un petit peu plus anciennement, sous réserve d'avoir une présence de sédentarisation. Et les derniers actes, les dernières constructions ou vestiges de type mégalithique sur la zone qui nous intéresse vont avoir lieu sensiblement vers 900 avant Jésus-Christ pour la date la plus récente. Mais restez quand même sur l'image globale que le cœur de la culture mégalithique, c'est vraiment entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ. Ensuite, la troisième question, c'est le comment. Eh bien, encore une fois, ce sera avec des outils de pierre et de bois, des cordes, des bœufs, du feu et de l'eau, et des qualités d'ingénierie certaines de son peuple. Rappelons-le qu'il s'agit de vos ancêtres directs, bien avant les Celtes et les Romains. Ce sont des personnes qui ont su transcender avec leurs outils, avec leurs qualités de leur époque, ont pu réaliser ces temples de pierre encore une fois. Il est parfois difficile de concevoir encore une fois le génie de ces bâtisseurs avec les outils qu'ils avaient à leur disposition. Néanmoins, nous ne pouvons rester que pantois devant l'ampleur de leur réalisation. Et la dernière question, celle qui va réellement nous intéresser pour cette dernière partie, à savoir le pourquoi. Eh bien, les raisons semblent multiples suivant les types de monuments. L'aspect funéraire est attesté, mais ne semble pas l'unique motivation. Et nous allons donc pouvoir tenter d'analyser un petit peu toutes ces données. Pour comprendre la fonction des mégalithes et donc le pourquoi de leur construction, il faut tout d'abord rechercher en amont, c'est-à-dire les raisons, mais surtout les croyances de ces peuples. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut, pour pouvoir comprendre les croyances d'un peuple qui ne nous a pas laissé d'écriture, il faut tenter de comprendre son fonctionnement et quelles sont tout d'abord ses préoccupations, afin de pouvoir en déduire leur modèle cosmogonique. Et ensuite, nous ferons des comparatifs avec les éléments anthropologiques que nous connaissons de d'autres peuples qui ont maintenu un mode de vie de type néolithique, peut-on dire, peut-être même de chasseurs-cueilleurs dans certains cas. Nous allons donc faire des comparaisons par la suite. Donc, tout d'abord, quelles sont les préoccupations de ces peuples du néolithique bâtisseurs de mégalithes ? Eh bien, leur première préoccupation, c'est de s'assurer leurs ressources alimentaires. Le but étant de pouvoir cultiver les champs, maîtriser l'élevage, afin de pouvoir bénéficier donc des ressources alimentaires. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est tout simplement la sécurité. Il faut préserver ce que l'on possède, préserver ses biens, préserver ses proches, et pour cela, on va créer un habitat avec notamment les premiers systèmes de défense, palissades, fossés. Donc, ressources alimentaires, sécurité, Et une troisième chose, on va voir avec les phénomènes de hiérarchisation sociale, les bijoux, les objets de valeur, peut-on dire, on va voir qu'il y a une certaine volonté d'acquisition, de réussite personnelle, de richesse personnelle, et donc d'élévation sociale, si l'on faisait un comparatif moderne. Donc, voici une troisième préoccupation de ces peuples. Ils ont pour but d'améliorer leur quotidien et d'accéder à une meilleure qualité de vie, si l'on peut dire. Ça, ce sont pour les trois premières préoccupations. Mais ensuite de cela, il y en a d'autres. Une de ces préoccupations est le rapport à la mort, et donc avec l'hypothèse des croyances dans l'au-delà. Depuis bien avant la période du néolithique, les hominidés, nos ancêtres, ont enterré leurs morts. Ils ont enterré leurs morts, pourquoi? Parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'au bout d'un certain temps, nous étions tous confrontés à la mort, et qu'au moment où le corps meurt, il dépérit, il redevient poussière, si l'on veut dire d'une certaine façon, et il va disparaître. Néanmoins, il est attesté par les comparaisons anthropologiques que ces peuples du néolithique croyaient à une existence au-delà de la mort, croyaient à une subsistance d'une entité, peut-être un esprit, peut-être une âme, quelque chose comme ça. Ce qu'on appelle vulgairement, enfin ce que l'on peut attester via le culte des ancêtres, le fait d'accorder une dévotion, un respect, de donner des offrandes aux personnes qui ont disparu. Donc ça, c'est unanime à toutes les cultures de l'humanité de ces époques, et donc par anthropologie, d'autres cultures plus récentes. Donc de ce fait, quand on a un processus d'enterrement des morts, on le ritualise, puisque on croit que cette personne peut potentiellement encore exister. Et donc, si elle existe encore, il est important de lui faire des offrandes pour faciliter son existence future, comprenez, dans la vie d'après. Or, encore une fois, par comparaison des modèles anthropologiques, on s'aperçoit, dans les croyances populaires typiquement du Moyen Âge, qu'on va retrouver dans les pays germaniques aussi, même en Grèce, on va retrouver des croyances comme quoi le lieu du séjour des morts est un endroit que l'on peut localiser. Donc un endroit que l'on peut localiser, par exemple une montagne sacrée, une grotte, ou éventuellement, qu'on va retrouver dans les croyances des mythologies grecques, que l'enfer peut se matérialiser par une sorte d'entrée dans le monde souterrain et qu'on peut se rendre sous la terre physiquement aux enfers. Donc ce qu'il faut comprendre dans le modèle de croyance de l'époque, c'est-à-dire probablement de l'animisme, c'est que ces peuples conceptualisent le monde des morts comme un lieu accessible, symboliquement. Peut-être pas physiquement, mais duquel on peut se rapprocher. Donc, les rites funéraires vont fatalement s'orienter vers ce qu'on appelle les hypogées. Donc les hypogées, ce sont des grottes, je vous rappelle, artificielles, enfin naturelles artificielles entre les deux, qui, donc on creuse une entrée, on creuse éventuellement une grotte, ou on accède à un boyau, donc une grotte souterraine, on va éventuellement la retravailler, l'améliorer. Donc c'est une grotte souterraine. Souterraine, donc, liée à ce séjour symbolique des morts, chthonien, des forces nourricières de la terre. On entre dans les profondeurs de la terre, dans ce monde de l'au-delà. L'hypogée, c'est donc un endroit où on rapproche symboliquement le défunt de cet autre monde, mais c'est également un endroit où on va lui donner des présents, parce que ces présents, il les aura directement à sa portée dans cet autre monde. Donc, dans l'optique du rite funéraire, c'est tout à fait cohérent la conception de l'hypogée. L'évolution avec le dolmen ou le cairn, s'il est plus conséquent, est exactement la même, si ce n'est que le bâti dans son intégralité est artificiel. Qu'est-ce que cela peut nous montrer comme différence entre l'hypogée et le dolmen? Eh bien, elle est importante. Un hypogée est une porte des enfers, une porte chthonienne naturelle. L'homme n'en est pas responsable. Il peut l'améliorer, mais il n'en est pas responsable. Alors que pour faire simple, en gros, l'humain va trouver une porte des enfers. Alors que dans le dolmen, il ne trouve pas une porte des enfers, il en construit une. Donc c'est une façon d'établir ou d'exposer sa domination sur ces forces invisibles, sa domination sur la nature. Donc, et là, on peut faire un comparatif très intéressant. La sédentarisation, qu'est-ce que c'est? L'agriculture, l'élevage. C'est le moment où l'homme s'émancipe des difficultés de la nature, il s'émancipe de cette fatalité alimentaire et donc devient indépendant d'elle. Et de l'autre côté, au niveau du rite funéraire, l'hypogée, c'est le moment où on subit la loi divine en enfouissant le corps sous terre, et le dolmen, c'est le moment où on s'émancipe de cette loi, on construit sa propre porte du monde chthonien, et on y dépose ses ancêtres. Et là est une importance fondamentale. Le mégalithisme, c'est une domination de son environnement. Et ça, c'est la première clé. Poursuivons d'ailleurs avec la notion même de l'architecture. Je vous rappelle que très symboliquement, un dolmen, c'est deux pierres verticales surmontées d'une pierre horizontale, ce qui symboliquement matérialise un arche, une porte, donc un passage encore une fois. Symboliquement, le dolmen est encore une fois le passage entre le monde des vivants à un monde sacré, à un monde chthonien lié aux forces souterraines ou au tellurisme, si vous voulez, quand on parle de forces terrestres. Alors, on en revient sur la notion d'inhumation des corps. Il est vrai que dans la plupart des complexes mégalithiques, enfin des complexes dolmen et cairn, on va retrouver des sépultures, c'est-à-dire on a enfoui des morts, on a offert des présents qui se sont retrouvés dans ces dites sépultures. C'est le cas de nombreuses nécropoles funéraires, donc dolmeniques. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes. Il existe certains monuments funéraires, certains dolmens ou cairns, qui n'ont pas de vestiges de défunts à l'intérieur. Et ceci peut avoir plusieurs raisons. Alors, la première raison souvent invoquée, par exemple en Bretagne, est l'acidité du sol, qui a pu faire intégralement disparaître le corps, et qui a laissé d'ailleurs certains éléments trésoraires, mobilier, céramique ou autres, qui ont subsisté dans la nécropole, ce qui nous permet de penser qu'il y a eu une inhumation de corps, mais que le corps, par sa fragilité, a disparu. Ça, c'est une première explication. Mais il y a une autre explication. Il est possible également que ces tombeaux aient été vidés à certaines époques successives pour être réutilisés, revidés, etc. C'est tout à fait envisageable, mais ne semble pas répondre à l'intégralité des cas. Il est, et je mets quelques parenthèses quand même sur ce que je vais dire, il est tout à fait envisageable que certains dolmens, certains complexes funéraires, n'aient en réalité pas été des nécropoles funéraires, ou du moins n'ont pas reçu de défunts. Et dans ce cas, quelle pourrait être leur utilisation? Alors, on va prendre un comparatif intéressant d'ailleurs avec un hypogée. C'est l'hypogée qui se trouve près d'Arles, donc l'hypogée de la grotte aux fées. La grotte aux fées est un hypogée. Alors, il y a quatre hypogées dans le secteur, et dont un qui s'appelle la grotte aux fées. Les trois autres ont des vestiges funéraires. On a retrouvé des corps et des présents à l'intérieur. Alors que dans la grotte aux fées, nous n'avons pas retrouvé de défunts. Or, ce n'est pas une histoire de dégradation des sols, ni du fait d'avoir vidé cet hypogée, pour la simple raison que les autres sont remplis. Donc ce n'est pas cohérent. Donc, il est évident, et l'on peut constater, que l'hypogée donc, de la grotte aux fées près d'Arles n'avait pas pour fonction d'accueillir le corps des défunts. D'où se pose la question, quelle était sa fonction. Alors, ce cas que je vous prends avec l'hypogée de la grotte aux fées peut être dupliqué, vous l'aurez bien compris, naturellement avec certains dolmens, mais c'est beaucoup plus facile à démontrer avec l'histoire de cette hypogée qui est vide, contrairement à ses voisins immédiats qui, eux, sont pleins. Donc, ce qui peut montrer la possibilité que certains dolmens ont pu être des nécropoles funéraires et certains autres ont pu ne pas l'être. Donc, et on en arrive à cette conclusion, les dolmens ne sont pas que des tombes, ils sont autre chose. Et quelle est cette autre chose? Eh bien, reprenons notre concept symbolique. Le dolmen ou l'hypogée est une porte symbolique, un arche, qui nous mène au monde souterrain, au monde chthonien de l'au-delà, de l'après-vie. Je n'aime pas employer le terme enfer parce qu'il a une connotation péjorative via la tradition judéo-chrétienne. Néanmoins, le terme enfer veut simplement dire le monde des morts dans les traditions polythéistes précédentes. Alors, du coup, si ce dolmen ou l'hypogée est une porte vers le monde souterrain, le monde chthonien, vers ses forces invisibles, ses pouvoirs divins invisibles, lieu également des défunts, donc lieu des ancêtres. Donc, si le dolmen ou l'hypogée est vide et qu'on se rend à l'intérieur, quel est le but? Eh bien, c'est une grotte ou une construction artificielle, un temple souterrain, un temple chthonien, qui a pour but de nous mettre en relation avec ses forces. Donc, si l'on prend le cas d'un chaman, toujours par comparaison anthropologique avec ce qui se fait ailleurs et d'autres époques, hein, bien sûr. Là, je vous renvoie aux travaux de Mircea Eliade sur cette question. Si l'individu, le chaman, se rend dans cette hypogée ou ce dolmen, donc ce temple chthonien, c'est qu'il a pour but d'entrer en connexion ou en communication avec les forces chthoniennes ou les forces souterraines ou éventuellement avec l'esprit des ancêtres. D'où le culte des ancêtres. Quand on veut communiquer, avoir des réponses, des oracles éventuellement, par les ancêtres du clan, on se rend dans l'hypogée, dans le but d'accomplir ces rituels, c'est un lieu de communication entre le monde des vivants et le monde des morts. Pour appuyer cette hypothèse, il faut s'intéresser aux croyances germaniques, scandinaves et celtiques, mais également slaves. Je vais prendre l'exemple concret avec les Celtes. Chez les Celtes, les druides étaient des individus, donc une sorte de chaman plus évolué, qui avaient la capacité d'entrer en communication avec les forces de l'invisible, avec les forces du Sige, l'autre monde. Le Sige, l'autre monde, peut être comparé à l'enfer. C'est le monde invisible qui n'est pas accessible par les humains normaux. Il faut être doté de qualités dites magiques, donc les druides. Le druide peut entrer en communication avec cet autre monde. Et l'on peut, par l'architecture, considérer que cela se produisait dans certains lieux où on considérait que la frontière entre les mondes était plus fine ou plus délicate. Eh bien, encore une fois, on va retrouver un symbole équivalent dans les peuples précédents du néolithique avec l'hypogée et le dolmen. Pour ajouter un autre élément et rappeler que les dolmens sont bel et bien en corrélation avec les peuples néolithiques de la civilisation dite chasséenne ou, encore une fois, non équivalent de la culture, des cultures donc ouest-occidentales, rappelez-vous que le dolmen n'est pas simplement justement ces deux pierres verticales et cette pierre horizontale, mais c'est également tout un remblai de pierres construites autour pour le maintien et l'architecture globale, et le tout recouvert d'un tumulus. Or, l'on remarque, si vous regardez les photographies donc des dolmens les mieux préservés ou des cairns avec donc ces pierres verticales et tout l'agencement des petites pierres qui s'amoncellent autour ou même à l'intérieur du monument, vous allez voir une corrélation avec les vestiges d'habitat en pierre de cette même époque par les civilisations. Vous prenez le cas, par exemple, aux îles des Orcades de Scarabray. Donc Scarabray, village néolithique qui date 4000-3000 avant Jésus-Christ, vous allez voir en fait tout à fait le même type de bâti entre les cairns et les dolmens que les habitations de Scarabray. Donc encore une fois, il y a une cohérence de style entre l'habitat et les méthodes de construction des espaces sacrés. Alors, quittons un petit peu le domaine des cairns et des dolmens pour nous intéresser au cas spécifique des menhirs ou éventuellement des alignements du menhir. Alors, le menhir dans sa forme la plus simple, la plus épurée, c'est-à-dire simplement le menhir unique, seul, qui donc s'élève vers le ciel, mais il est planté dans la terre. Donc, rappelons-nous la terre, symbole des forces chtoniennes, telluriques de la terre, et puis le ciel, lieu de résidence du divin, créateur, avec justement cette symbolique de l'orage, des pluies qui viennent fertiliser le sol. Car rappelons-nous, nous sommes dans une société sédentaire qui domine l'agriculture. Or, assez rapidement, on va comprendre que pour faire germer les cultures de la terre, il va falloir une puissance, une force qui vient du ciel. Cette puissance, c'est le soleil, la lune, l'eau, l'orage, le vent, toutes les forces donc, qui viennent symboliquement du ciel. Donc, c'est le pouvoir fertilisateur. Et puis inversement, le pouvoir de naissance, celui qui donne la vie, c'est le sol. Les plantes, tous les éléments, donc végétaux, blé, etc., tout sort du sol. Il naît de la terre, mais via une puissance céleste. La pluie, le soleil, etc., tout ça. Donc, on en revient au principe que dolmen et cairn sont liés au rapport chtonien de la terre et donc aux forces féminines, si l'on peut dire, qui donnent la vie. Et inversement, le menhir, lui qui s'élève vers le ciel, est comme une sorte de paratonnerre, d'antenne symbolique qui lie le pouvoir de la terre au pouvoir du ciel. Donc, je me permets l'hypothèse d'établir à ce stade, je pense que le menhir est une sorte de point, d'antenne, qui a pour but d'appeler la puissance du ciel sur terre. On voit tout à fait donc les rituels de fertilité autour des menhirs qui se sont poursuivis au-delà, bien au-delà de l'époque d'édification de ces sites, qui s'est poursuivi même dans des époques du 18e, 19e siècle en France, où les femmes avaient encore pour habitude de se rendre auprès des menhirs dans une quête de fertilité. Et je pense que l'on peut aller plus loin dans cette symbolique, encore une fois, en considérant que le menhir a pour but d'appeler la puissance du ciel à venir bénir la terre qui se trouve en dessous, justement, pour favoriser, encore une fois, le mode de vie, la culture et les besoins d'une société sédentaire. Alors, qu'en est-il d'un alignement de menhir ? Donc, deuxième type, plus complexe. L'alignement de menhir peut avoir plusieurs symboliques. Il peut matérialiser éventuellement toujours cet appel des forces célestes, mais a pour but de l'amplifier via des zones. Peut-être que ces alignements de menhir étaient accolés à des champs, à des zones de récolte, pour encore une fois enserrer symboliquement ou marquer symboliquement la continuité d'un espace d'agriculture et en attirer les bienfaits célestes. C'est une théorie, enfin une hypothèse qui me semble tout à fait correcte. L'idée que, comme quoi les alignements de menhirs puissent représenter des bornes de marquage est intéressante, mais me semble incomplète. Par exemple, si l'on prend les alignements de Carnac, il me semble quand même incohérent de considérer que ces plusieurs lignes de menhirs alignées puissent matérialiser une frontière. Ce n'est pas cohérent. Il vaut mieux symboliquement marquer une pierre de temps en temps ou une pierre pour marquer un emplacement symbolique plutôt que des allées aussi complexes. Donc je pense beaucoup plus que dans le cas des alignements de Carnac ou des autres équivalents, nous sommes beaucoup plus sur une sorte de matérialisation encore de la puissance céleste qu'on appelle dans un lieu donné. L'abondance de mégalithes dans la zone de Carnac, pas uniquement des menhirs mais également des dolmens, des cairns qui se trouvent à proximité, pourrait suggérer un habitat humain relativement conséquent pour l'époque, comprenez-le. Donc des villages d'importance. Et peut-être que les alignements de Carnac sont un site d'appel aux forces célestes collectif dans une zone d'agriculture importante. C'est ce qui me semble à ce stade le plus cohérent. Alors, prenons le cas suivant avec les ce que je voulais dire, les menhirs qui sont insérés au sein d'un cromlech. Alors, je vous rappelle pour l'exemple que Stonehenge est le plus connu en Angleterre. C'est une sorte de cercle géant avec une pierre centrale, une pierre d'autel. Mais parfois, les cromlechs peuvent avoir en leur centre un menhir. En l'occurrence, cela va dépendre suivant les différents cromlechs. Rappelons-nous que Stonehenge est plutôt récent par rapport à la culture mégalithique dans son ensemble. Si l'on reste sur les modèles de cromlechs relativement simples, on a un cercle de pierre et éventuellement, possiblement, du moins, un menhir au centre. Je pense que dans cette architecture sacrée, nous sommes face à une sorte de représentation cosmogonique du monde. Rappelons-nous toujours culture sédentaire, rurale, agricole, avec cette dépendance, entre parenthèses, des forces du ciel. Si l'on fait toujours ces comparaisons anthropologiques, on va retrouver le concept qu'on appelle l'axis mundis. L'axis mundis, c'est quoi? C'est le pilier central du monde, celui qui porte la voûte céleste et qui le relie à la terre. Donc, symboliquement, c'est l'union entre la déesse féminine et le dieu mâle qui sont reliés par cet axis mundis. Donc, le menhir peut éventuellement représenter, encore une fois, ce pilier central, cet axis mundis, que l'on va retrouver d'ailleurs dans des mythologies un petit peu plus récentes. On va retrouver le principe de l'arbre-monde chez les Nordiques, avec Yggdrasil. On va retrouver la même chose chez les Germaniques, avec Irminsul. On va retrouver la même chose chez les Slaves, chez les Celtes, etc. La notion de pilier central ou d'arbre-monde, donc d'axis mundis, va se retrouver, encore une fois, dans la plupart des peuples, ce que nous montre l'anthropologie. Les cultures aborigènes d'Australie ou de Sibérie ou même d'Amérique du Sud ont conservé dans leur mythe cette notion donc du pilier monde, cet axis mundis qui relie le ciel et la terre. Je pense que c'est la symbolique la plus pure, entre parenthèses, du menhir, sans occulter l'hypothèse que je vous donnais préalablement de cette idée d'antenne qui appelle symboliquement, bien sûr c'est une question de croyance, qui appelle symboliquement les forces du ciel à venir sur terre. Mais ce qui ne va pas d'ailleurs en contradiction avec l'idée de l'axis mundis. Alors, du coup, quand on entre dans cette architecture, cette fois-ci un peu plus complexe qu'est le cromlech, il me semble qu'il s'agit du sanctuaire à l'état pur de ces peuples du néolithique. Autant le menhir peut avoir une vocation rituelle spécifique, le dolmen peut avoir une vocation rituelle spécifique et même un aspect cérémonique dans cette idée du contact rituel avec le monde octonien ou le monde des morts. Et je pense cette fois-ci que le cromlech établit vraiment le sanctuaire prédominant, principal, d'un culte solaire et éventuellement lunaire. Donc, culte qui n'est pour le coup pas chtonien. La symbolique du cercle montre symboliquement le passage du cycle des saisons, le cycle de la lune ou le cycle du soleil, et avec cette pierre d'autel au centre, ou ce menhir, qui représente l'axis mundis, ou l'axe du monde, si vous préférez. L'architecture en cercle du cromlech est une, à mon sens, représentation cosmogonique de l'univers et du phénomène cyclique qui se reproduit perpétuellement. Les humains de cette époque ont rapidement constaté que la nature se régénère périodiquement. Elle meurt, elle renaît, le printemps revient, les semences poussent, elles se récoltent, la nature meurt et cela recommence indéfiniment. Tout comme le soleil se lève chaque matin, meurt chaque matin et recommence tous les jours. La lune suit un cycle de 28 jours et quelques et se reproduit perpétuellement. Les gens vont également remarquer que le cycle annuel du soleil est également perpétuel. Le soleil se lève à tel endroit de l'année à telle époque, et puis il se lève à tel endroit à une autre époque, et donc les gens vont naturellement observer ces phénomènes de variation avec les solstices et les équinoxes. Et cela nous amène justement à cette notion de l'alignement des sites. Donc, pour faire un petit peu le bilan, rappelons-nous que la plupart des sites mégalithiques de type dolmen, cairn ou cromlech sont placés en corrélation avec des phénomènes observables, donc de solstice. Rappelons-nous le solstice d'hiver ou le solstice d'été. Donc solstice d'été sensiblement 22-24 juin et le solstice d'hiver sensiblement 22-24 décembre. Ou alors l'équinoxe, 21 mars, enfin, cette région, ou 21 septembre pour l'équinoxe d'automne. Le fait de présenter ces documents donc sur ces... D'abord, excusez-moi. La plupart de ces monuments sont alignés sur ces phénomènes. Ce n'est pas le cas de tous. Et ce n'est pas non plus toujours la même chose. Ils ne sont pas toujours alignés sur le lever de soleil ou le solstice d'hiver. Parfois, c'est sur le coucher. Parfois, c'est sur le solstice d'été, etc. Il y a des variables régionales, encore une fois. Et puis, certains sites ne répondent pas à ce besoin. En sont en général un petit peu décalés pour des raisons d'enfractuosité rocheuse. Si on construit un menhir avec des difficultés dû à l'emplacement choisi, on peut se retrouver dans l'impossibilité d'aligner parfaitement le monument avec ce phénomène, ce qui fait qu'il va être décalé de quelques degrés. Cela peut se constater de nombreuses fois. Mais pour une majorité des cas, ils sont bel et bien en orientation sur ces phénomènes solstice ou équinoxe. Alors, du coup, quelle est cette symbolique dans les dolmens d'abord et après dans les cromlechs? Alors, dans les dolmens, c'est relativement simple. Les lieux qui sont des portes d'entrée du monde des morts sont reliés au phénomène de mort et de résurrection du soleil. Le solstice d'été, c'est le moment où le soleil est au fait de sa puissance. Il régénère la terre, il est au fait de son pouvoir. Le solstice d'hiver, un moment, c'est l'inverse. C'est le moment où le soleil est le plus faible, c'est le moment où il meurt. Mais il meurt pour mieux ressusciter. Le moment de sa résurrection, c'est l'équinoxe de printemps. C'est le moment où le soleil, les jours redeviennent plus longs que les nuits, etc. Ce que célébré d'ailleurs par la Pâque ou la Pécha, ou encore d'autres fêtes suivant les différentes traditions. Donc le fait de lier ces monuments du monde souterrain avec les puissances génératrices de mort et de résurrection du soleil, ça a une logique. Le mort, tout comme le soleil, meurt et ressuscite. Donc on ne croit pas forcément à la résurrection du corps, mais on croit dans tous les cas à une subsistance, à une vie dans l'au-delà, encore une fois, matérialisée par ce soleil mourant et renaissant perpétuellement. Alors dans le cas... Rappelons-nous aussi que le soleil, quand il entre dans ces monuments, a pour but en général de frapper une pierre Enge, qui se trouve au fond du monument, parfois avec des inscriptions, enfin des inscriptions, pas de l'écriture, hein, mais des symboles, des gravures spécifiques qui ont pour but de représenter quelque chose. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas lire le message de ces inscriptions, mais dans tous les cas, cela a une importance, puisque le soleil vient frapper à une date précise de l'année une pierre, présente ces pétroglyphes avaient une valeur, nous ne la connaissons juste pas. Pouvons tenter de les interpréter par rapport à ces raisonnements symboliques et théologiques. Dans le cas des cromlechs, alors le cromlech, c'est plus complexe sur le plan que c'est une sorte de cercle, donc le soleil forcément fait le tour suivant ses positions de l'année et de la journée, et il entre par différents aspects dans ce cercle de pierre, matérialisant éventuellement des passages de saison. Donc il est tout à fait possible que le cromlech soit dans son état base une représentation allégorique cosmogonique du monde, mais également des lieux de marquage pragmatique des positionnements du lever du soleil et de la mort du soleil. Je prends un exemple concret, vous prenez un cercle de pierre et vous pensez que la troisième pierre, c'est l'endroit où le soleil se lève au solstice d'hiver. Et puis la septième pierre, c'est le moment où le soleil se lève au solstice d'été. Et la pierre là, au milieu, c'est le moment où le soleil se lève à l'équinoxe. Donc, en ayant ce cercle, on peut tout à fait avoir des repères pour les moments de l'année, les saisons, et donc pour le moment où on plante les récoltes et où également on fait d'autres actions liées à ce phénomène, encore une fois, d'agriculture. Il est tout à fait possible que les cromlechs soient avant tout des sortes de calendriers astronomiques qui permettent de calculer les saisons et donc les cycles de l'année. Et puis, sur un aspect plus religieux, puisqu'il est tout à fait probable et même logique qu'à cette époque, le religieux et le réel ne soient pas tellement séparés, puisque tout s'inclut dans un modèle cosmogonique. Donc, il y a cette représentation pragmatique du cycle des saisons, mais également cette représentation théologique, cette fois-ci, de cosmogonie du monde. Donc, lieu où l'on fait les rituels. Les rituels à connotation religieuse. Souvent, au centre, on a une pierre d'autel. Cette pierre d'autel était souvent une pierre de sacrifice où on faisait les offrandes. Alors, pourquoi on fait des sacrifices à cette époque? Sacrifices humains ou animaux, hein, peu importe. L'idée, c'est encore une fois l'acte sacrificiel, c'est l'acte symbolique de mort et de résurrection du soleil. Donc, de mort du dieu et de résurrection du dieu. Les anthropologues nous montrent aujourd'hui que le premier mitème de l'humanité est ce cycle perpétuel de mort et de résurrection, et donc la volonté que le dieu créateur ou l'entité créatrice se sacrifie pour ensemencer la terre, ressuscite plus tard et se resacrifie perpétuellement. Donc le sacrifice fait sur ces pierres d'autel pouvait tout à fait avoir pour but de reproduire ce modèle cosmogonique du dieu sacrificateur et ressuscité, mais ressuscité dans l'autre monde bien sûr, un peu comme un Dionysos Agrius par exemple. Et donc, du coup, le sang versé sur la terre ensemence les forces chthoniennes qui vont pouvoir donner la naissance. On retrouve toujours avec le sacrifié qui est le dieu céleste et la terre nourricière qui est le réceptacle de ce sang, le réceptacle de ce sacrifice et qui va pouvoir donner la vie par la suite. C'est ça le modèle qu'on appelle la hiérophanie, donc la ritualisation ou la reproduction de la création cosmogonique du monde. Donc, dans ces peuples du néolithique, par comparaison avec les éléments, encore une fois, anthropologiques des cultures qui sont encore sous une forme tribale ou sous une forme de culte animiste, on peut, par comparaison, hypothétiser assez facilement, entre parenthèses, hein, trouver une logique, une cohérence à ces différents sites mégalithiques quant à leur fonction. Touchons quelques mots également sur les statues menhirs qui sont pour le coup un petit peu plus simples à interpréter sur un point de vue théologique. La statue menhir, c'est avant tout un menhir, une pierre dressée, mais qui est sculptée. Notons d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, que la plupart des menhirs qui se trouvent dans l'Europe ouest-occidentale ont pu potentiellement être sculptés à un certain niveau, à une certaine mesure, à une certaine époque, mais que l'érosion ayant fait son travail, ces sculptures ou ces fresques pétroglyphiques ont pu éventuellement disparaître. Alors, bien sûr, tous les menhirs n'ont pas été sculptés aussi bien que ce qu'on appelle les statues menhirs, mais il est encore une fois possible que l'érosion ait effacé une bonne partie des présences pétroglyphiques, cupules ou autres, qui ont pu exister sur ces monuments. Digression faite, retournons sur les statues menhirs. Les statues menhirs, au niveau de leur interprétation et de leur iconographie, c'est relativement simple. C'est la représentation d'un individu qui peut être un héros, c'est-à-dire un personnage important du clan, un personnage, un prêtre du sacerdoce, un chef de guerre, un dirigeant du village, une sorte de roitelet, même si le terme est anachronique, hein, mais un roitelet du secteur, un personnage mythique, c'est-à-dire un héros fondateur, ou éventuellement une divinité. Comprenez, j'ai employé le masculin, mais ça peut tout à fait être des femmes aussi. Ça peut être une femme fondatrice, la grande mère sage des temps anciens, etc. Donc les statues menhirs sont avant tout des personnages statufiés, des héros disparus ou éventuellement divinisés ou même directement des dieux. Alors, il est très difficile de trancher entre le héros mythifié et la divinité, bien sûr, c'est absolument impossible de dissocier entre les deux, mais cela atteste sans aucun doute une notion du culte des ancêtres. Alors, parfois, quand on a un alignement de statues menhirs, l'on peut hypothétiser qu'on fasse référence à une armée, une bataille, ou à un moment, sept anciens guerriers héroïques qui ont protégé le clan face à ce que vous voulez, ou sept fondateurs qui sont venus ensemencer par leur génie et leur culture ce territoire et ils ont fondé le village. Donc on trouve exactement la même symbolique à l'état individuel qu'à l'état collectif, avec des représentations variables. Donc ces stèles menhirs avaient pour but de commémorer un événement mythique ou réel, mais pouvait également simplement matérialiser le souvenir d'un haut personnage pour conserver sa mémoire avec le temps. Ce qui malheureusement n'a pas réussi, puisque nous ne nous rappelons pas d'eux à cause du manque de l'écrit. Mais c'était très probablement très cohérent pour les peuples de cette époque. C'est-à-dire que si une statue menhir avait été élevée en l'an temps, il est tout à fait probable que 100 à 550 ans après, on se rappelait parfaitement par la tradition, par l'héritage verbal, de qui était cet illustre héros fondateur ou mythique ou divinité. Encore une fois, les statues menhirs sont l'iconographie la plus simple dans ce modèle de croyance de ces peuples anciens. Pour faire le bilan, à ce stade, il me semble impossible de dissocier l'art mégalithique de ce qu'on appelle l'art sacré. Il est vrai que les dolmens ont pu servir de monuments funéraires, il est vrai que certains menhirs ont pu servir de stèles de bornage pour matérialiser une frontière, mais cela reste des aspects importants, mais néanmoins pas centraux, puisque le cœur vraiment de cette armée galactique est avant tout la connotation de la matérialisation et du besoin du sacré. Si on voulait enterrer les morts, on aurait pu le faire comme dans les tumulus par le passé. Si on voulait marquer une borne frontière, on pourrait mettre un poteau en bois, ça serait quand même beaucoup moins compliqué. Donc, ce qui a suggéré la construction de ces sites mégalithiques qui ont nécessité du temps, des efforts immenses, des méthodes d'ingénierie à la pointe de ce qui se faisait à cette époque, un outillage complexe pour cette époque, une volonté sans faille et une organisation sociale, ce n'est pas simplement le désir d'enfouir un mort, ce n'est pas simplement le désir de marquer une frontière, c'est pour se relier, se connecter avec le monde du sacré. Évidemment, il ne faut pas tenter d'interpréter les croyances et cette vision du sacré de ces peuples dinoétiques avec notre pensée moderne. Nos concepts théologiques actuels ne sont pas ceux de ces peuples du mégalithisme. Cependant, ils en sont les héritiers. Ils en sont des héritiers très lointains. Ils ont énormément évolué. Mais les concepts fondamentaux, ce qu'on appelle les mythèmes, peuvent fondamentalement être les mêmes. C'est une société sédentaire, agricole, qui vit de la terre, des ressources qu'elle lui offre et du cycle perpétuel de recommencement. Mais également, c'est la manifestation de sa domination et de son contrôle de ces cycles. En gros, c'est une situation d'harmonie entre un cycle cosmogonique divin et une volonté humaine, par son art, sa technique et son invention, de pouvoir s'émanciper des difficultés initiales de ce cycle cosmogonique. Donc, on domine la nature tout en s'insérant quand même dans un schéma cosmogonique. Donc, le Cromlech est un temple à caractère lunisolaire, calendrier des saisons et représentation cosmogonique du monde. Le menhir est la symbolique de cet axis mundis, mais également une sorte d'invocation, à mon sens, des forces du ciel pour ensemencer la terre, fertilité, toujours pareil. Et puis, le troisième, bien sûr, le dolmen ou le cairn funéraire, qui a pour but d'être un lieu de frontière, un lieu symbolique, mais concret, quand même, vous l'aurez compris, où on se met en connexion, en relation avec les forces du monde ctonien, du monde du dessous. Dans cette perspective de ces portes artificielles du monde tellurique, du monde ctonien, nous nous trouvons avec l'armée galactique, avec un ancêtre direct des concepts que l'on retrouvera dans les cultes à mystère de l'Antiquité grecque, avec ce principe du voyage des morts dans l'autre monde, avec les mythes d'Héraclès, d'Orphée, de Dionysos Agréus, avec le principe de l'individu qui peut voyager symboliquement dans l'autre monde pour en tirer une connaissance, une initiation et en ressortir. Alors, chez les Celtes et les Nordiques, on va retrouver des concepts sensiblement équivalents avec, par exemple, dans les traditions arthuriennes, l'île d'Avalon, où symboliquement on utilise une barque, l'eau, symbole habituel de frontière entre le séjour des vivants et le séjour des morts, on se rend à Avalon, on y acquiert l'initiation et on peut revenir si on est un druide. Donc, ces temples ctoniens, que sont les dolmens ou les hypogées, sont des lieux de communication avec l'au-delà, des lieux de communication avec les forces de la Terre, mais éventuellement, je mets néanmoins quelques parenthèses, je ne peux pas l'affirmer, c'est une hypothèse, ce sont, à mon sens, des temples à caractère initiatique, mais du néolithique. Et voilà pour la conclusion que je voulais vous apporter sur la civilisation des mégalithes. Nous voici arrivés à la fin de cette émission et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors, peut-être que certains d'entre vous êtes déçus, pensant que l'édification des mégalithes était l'œuvre d'une ancienne civilisation antédiluvienne à la technologie futuriste. Ou encore que les mégalithes étaient l'œuvre d'une civilisation extraterrestre venue d'une autre galaxie. Mais tout ceci relève de la fiction. Pourtant, il n'y a pas de raison d'être déçu, car cela voile surtout la réalité des prouesses de ces peuples de la proto-histoire qui ont fourni des efforts incroyables pour nous livrer ces témoignages de pierres qui ont traversé les millénaires. Ces monuments sont leur héritage. Ils nous livrent ici le cœur de leurs croyances et de leurs prouesses de bâtisseurs. Et ceci mérite le respect et l'émerveillement. Alors, si vous avez apprécié mon travail, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant mécène sur Tipeee ou encore souscripteur sur YouTube, ce qui vous donne accès aux vidéos privées. Car c'est grâce à vous et à votre soutien que la chaîne existe et que je peux continuer à vous proposer des émissions sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête historique, mythologique, religieuse ou encore ésotérique sur la chaîne Arcana les mystères du monde. À très bientôt.